Soyez les bienvenus. C'est l'heure de retrouver Alain Jeanne pour votre émission Chut, on écoute la télé, le talk show radio en podcast maintenant sur onécoutelatélé.com. Chut, on écoute la télé avec votre biscuiterie Les Caprices de Thérèse. Des biscuits fabriqués à Blanzac en Haute-Vienne avec un savoir-faire artisanal et un goût authentique. Découvrez toutes nos recettes en grande surface. Les Caprices de Thérèse, dégustez l'excellence. Chut, on écoute la télé avec votre agence de voyage Les Ailes du Partage. Amandine, votre interlocutrice privilégiée, vous proposera voyage à la carte et sur mesure, adapté à votre budget dans le monde entier. Passez du rêve à la réalité en réservant votre prochain voyage au 06 72 32 47 67 et sur voyage-solidaire.com.
Succomber au plaisir d'un dessert Marie Morin en écoutant Chut, on écoute la télé. Marie Morin, une entreprise familiale, un goût inimitable. Retrouvez la fameuse mousse au chocolat à l'ancienne et vos recettes sans colorant, sans conservateur et vos points de vente près de chez vous sur marie-morin.fr.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chut, on écoute la télé.
Bonjour à tous et très bon début de semaine. Ravi de vous retrouver sur notre site onécoutelatélé.com pour Chut, on écoute la télé, le podcast. Tous les lundis à 20h, eh bien, nous vous donnons rendez-vous justement pour ce podcast avec tous nos invités où pendant une heure, nous allons vous accompagner pour passer en revue l'actualité culturelle de la semaine avec tous nos invités. Alors, vous savez pas? Eh bien, on va faire tout de suite le sommaire. Eh bien, oui, c'est parti.
Chut, on écoute la télé.
Le talk show radio.
Allez, au sommaire de ce tout nouveau numéro de Chut, on écoute la télé. Aujourd'hui, notre coup de cœur ciné en fin d'émission consacré au film La Petite Graine des frères Rifkis, Colin et Mathias seront avec nous. Louise Massin et Oussama Kedam également, les comédiens seront nos invités exceptionnels pour en parler. Nos coups de cœur télé cette semaine consacrés à Marie au premier regard. Perrine et Alexandre nous ont beaucoup émus. Il y a 15 jours, ils reviennent ce soir à l'écran et Perrine sera notre invitée exceptionnelle pour revenir sur le parcours dans l'émission. Et puis, nos coups de cœur télé seront consacré aussi à Ici Tout Commence. On va parler de l'orage qu'a traversé le couple Anaïs Milan dans Ici Tout Commence. Julie Sassoust et Gabriel Rézé seront nos invités exceptionnels pour en parler. Grande spéciale Meurtre à Concarneau, nouvel opus de la collection Meurtre qui sera diffusé samedi soir sur France 3. L'équipe au grand complet est là aujourd'hui, les comédiens Guillaume Arnaud, Raphaël Agoguet et Hubert Delattre. Et puis on a également Adeline Darrault, la réalisatrice, les producteurs Pierre Sportolaro et Frédéric Frances, ainsi que les conseillers de programme à France TV. Stéphane Massard et Nadira Merabé. Et puis cette semaine en exclu podcast, on va reparler de la série Phoenix qui sera diffusée mercredi soir pour une grande soirée événement sur France 2. Nous aurons toute une partie de l'équipe qui seront avec nous, réalisateurs, producteurs, comédiens. Bref, ne manquez pas notre spécial. Et puis elle se produit partout en France avec son spectacle 60 nuances de Chris. Elle passera d'ailleurs à Toulouse ou à Avignon. C'est Chris Baranzelli qui sera notre invité exceptionnel également aujourd'hui. Vous l'avez compris, on va pas s'ennuyer du tout aujourd'hui dans Chut, on écoute la télé. Alors on démarre tout de suite avec Ici Tout Commence.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, notre coup de cœur télé consacré à Ici Tout Commence, votre série vous suivez du lundi au vendredi à 18h30 sur TF1. Et on peut dire qu'il s'en est passé des choses ces derniers jours dans le couple Anaïs-Milan. Il y a eu un sacré orage et ça tombe bien pour revenir sur cette arche qui vient de se dérouler. Eh bien, ils sont tous les deux avec nous, Gabriel Rézé, pour la première fois. Bonjour Gabriel.
Bonjour, bonjour, bonjour à tout le monde. Très, très heureux d'être ici avec vous.
Eh ben merci, et Julie Sassoust qui est de retour, allez, même pas 3 mois après le diplôme où elle était avec nous. Eh bien, c'est pour Ici Tout Commence, évidemment, où elle a fait son grand retour, évidemment. Et puis alors là, directrice, madame.
Et oui, directrice, sacrée responsabilité. En tout cas, bonjour tout le monde et très ravie de revenir dans cette émission.
Alors, moi, je suis très heureux de vous avoir, parce que c'est vrai que vous nous avez fait vivre un peu des montagnes russes, hein, pendant, on a cru que Milan, franchement, avec Jasmine, ça allait tout capoter dans le couple. Et c'est vrai que c'est des arches qui sont toujours un peu intéressantes, parce que ça permet d'affirmer aussi un peu dans une arche comme celle-ci. Alors, je vais pas dire le pouvoir, mais un peu les nouvelles responsabilités d'Anaïs, en tant que directrice par intérim de l'Institut.
Oui, surtout qu'Anaïs, elle a eu pas mal de choses à gérer aussi avant et du coup, elle a vraiment pas envie que ça se passe mal après, et surtout avant le retour de Tessier. Donc, elle est très stressée par rapport à ça et elle est focus en fait sur l'Institut et sur tout ce qu'elle a à gérer et au détriment de sa vie personnelle, quoi.
Ça a failli coûter son couple, cette histoire. Mon cher Gabriel, c'est la première fois dans l'émission. Alors, c'est vrai que Milan a un parcours dans Ici Tout Commence assez dingue, hein.
Ah ouais, non, clairement. Bah, il est arrivé, on va dire, avec une arrivée assez remarquée. Et puis, il est passé par de multiples couches.
Alors, si je me souviens bien, tout le monde croyait qu'il était mort au début, hein. Qu'il avait été assassiné sur un bateau.
Exactement. L'intrigue qui commençait donc avec le personnage de Lou et le personnage d'Enzo, avec cette péniche, le sang, etc., le couteau.
C'était avec Morte, c'était magnifique les scènes que vous avez tournées là-bas, je m'en souviens.
Ah oui, et d'ailleurs, petite parenthèse, comme le générique qu'on a tourné où on est ensemble avec Margot qui joue Billy, les marées quand on tourne en général, on apprécie beaucoup parce que les décors sont fantastiques.
Et puis après, bah, il a fait une arrivée tonitruante, on peut dire, à l'Institut, hein.
Ah oui, oui, clairement. Et puis, il y a eu donc très vite le début de ce couple avec Anaïs, qui a fait évoluer aussi le personnage de Milan. On le voit toujours avec cette colère qu'il représente, qui est à l'intérieur de ce personnage, mais il s'est adouci. Et puis, on a découvert plein d'autres facettes plus intéressantes. Et moi, ça m'a permis aussi de développer le personnage. C'est vrai que depuis que je suis arrivé, les scénaristes ont écrit beaucoup de choses intéressantes pour développer ce personnage. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on peut le retrouver dans plein de situations différentes, autant dans des scènes comiques, au sein de la coloc, mais aussi avec des scènes un peu plus dures, comme dans cette arche. Et c'est vrai que c'est pour ça que nous, on a beaucoup apprécié tourner cette arche, en tout cas.
Alors, c'est vrai que pour toi, Julie, le parcours, il est sans faute depuis le début. En juillet, ça fera 6 ans que tu tournes dans Ici Tout Commence. Et c'est vrai que ce personnage, on l'a découvert étudiante et finalement aujourd'hui directrice par intérim. Quand on voit toutes les couches que tu as pu montrer d'Anaïs au fur et à mesure de ces 6 ans, c'est juste dingue pour une comédienne de pouvoir jouer tout ça.
Ah ouais, franchement, c'est une chance de fou. Et à chaque fois, je le dis en interview, mais merci les scénaristes, parce que tout ce que j'ai pu jouer et ce que j'ai pu faire, même en termes d'acting, quand je pense, même dans le bateau, la noyade, etc., par rapport à l'arche du petit frère. Mais même là, surtout le poste de directrice, à chaque fois, je me demande toujours qu'est-ce qu'ils vont trouver de plus pour Anaïs et qu'est-ce qui va être nouveau aussi pour moi. Et je me fais tout le temps surprendre et je me dis, ah ouais, ça, ok, c'est parce que même par rapport à la cuisine, au niveau des textes, moi, j'ai l'habitude même des textes de cuisine et de ce vocabulaire-là. Et même dans le poste de directrice, du coup, c'est complètement différent et c'est une autre stature pardon, à avoir. Et c'est hyper intéressant. Et donc, à la fin, c'est ce que je me disais, finalement, quel poste n'a pas eu Anaïs au sein de l'Institut.
C'est clair, et puis elle montre de la sévérité, on l'a découvert bien autrement, au grand détriment de Milan, qui du coup, effectivement, il y a eu un orage avec un éclair nommé Jasmine ces derniers jours.
Exactement, bah, c'est vrai que depuis que Milan a intégré cette coloc avec Jasmine et Tom, forcément, qui dit Jasmine dit Naël, et je pense que c'est vrai que ce petit Naël a été quand même le liant qui a fait que Jasmine et Milan ont tissé une relation assez particulière, et c'est ce qui aussi, je pense, a amené cet orage et a amené le fait aussi que Milan n'a pas pu apercevoir, on va dire, le trouble qu'a eu Jasmine.
Effectivement, il s'est senti délaissé peut-être aussi, c'est aussi ça.
Clairement. Bah, c'est vrai que de toute façon, je pense que la chose qui charme énormément et ce pourquoi Milan est très attaché et amoureux d'Anaïs, c'est son ambition. Mais forcément, bah, il y a le double tranchant de l'ambition et ce qui fait que Anaïs sacrifie son couple pour son poste de directrice parce qu'elle aussi, elle est sous l'eau. Bon, on l'a vu avec l'Arche d'Avant, avec Stan, c'est ça ? Où il y a plein de choses qui se passent avec le retour de Valdine. Enfin, c'est vrai qu'elle était son retour. Enfin, quand t'étais directrice, c'était fou.
Très intense. Il va être temps que Tessie revienne.
Ah, il va être temps que Tessie revienne. Ah, complètement, franchement, sans faire de parallèle, non, pas du tout. Non, c'est vrai que l'arche directrice, enfin, et les arches qui ont suivi aussi derrière, sont des arches qui ont été très intenses parce que malgré tout, ça demande d'une omniprésence, enfin, le personnage est omniprésent malgré tout dans beaucoup de séquences, même dans les arches des autres. Et ça implique de jongler aussi entre ce qui se passe pour le personnage et ce qui se passe pour les autres et avoir un cadre vraiment défini par rapport à qui est Anaïs dans le perso et qui elle est dans le pro, mais pas que la cuisine, par rapport à la gestion d'un institut. Et par rapport aux élèves, dont certains qui sont ses colocs ou ses amis. Et c'est vrai que tout ce travail-là à faire, il doit être hyper rigoureux, il doit y avoir une certaine discipline, parce qu'il faut respecter une certaine forme de continuité et aussi faire des choix de qu'est-ce qu'on a envie de faire et qu'est-ce qu'on a envie d'apporter au personnage par rapport au public. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans l'arche directrice, c'est que malgré tout, on voit cette vulnérabilité de quelqu'un qui a envie de bien faire et qui est obligé à un moment d'accepter qu'elle ne peut pas tout contrôler et qu'elle va devoir faire comme elle peut avec ce qu'elle a et surtout avec son jeune âge, quoi.
Quand t'es arrivée sur la série, Gabrielle, tu t'es dit quoi? Parce que autant Julie, quand elle arrivait sur Ici tout commence, elle savait un petit peu à quoi s'attendre avec le rythme d'une quotidienne, tout ce que ça représente. Elle en avait fait déjà une avant. Toi, t'es arrivée vraiment sur Ici tout commence. 26 minutes à mettre utile par jour, un décor incroyable. En plus, il faut dire que sur Ici tout commence, une chance assez dingue. Quand on arrive sur un paquebot pareil, on se dit quoi?
Alors, étonnamment, comme c'est une machine qui est extrêmement bien rodée, l'acclimatation se fait assez facilement et assez rapidement, en tout cas pour ma part. Et même en général, quand je vois encore les super comédiens qu'on a là de la nouvelle promo, ils sont acclimatés très très vite. Et c'est vrai que bon, ben la chance forcément de tourner avec Julie qui est là depuis le début, c'est que on se retrouve sur le plateau avec quelqu'un qui est hyper bosseuse, qui connaît super bien son personnage,
qui connaît le château par cœur dans ses moindres recoins.
Ah ouais, parce qu'il y a des petites pièces secrètes dans le château que moi-même j'ai pas eu encore l'honneur de visiter, donc j'espère que ce sera le cas un jour. Mais pour être très sincère avec vous, c'est vrai que moi, quand je suis arrivé sur ITC, j'ai beaucoup observé Julie sur le plateau pour voir comment elle interagissait avec les uns, les autres, comment elle travaillait. Parce que c'est vrai que cette quantité de texte, elle est pas évidente à ingérer, même si moi, je viens quand même du théâtre, donc un certain rapport au texte. Mais c'est vrai que quand on peut aller quand même jusqu'à 7-8 séquences quand je suis arrivé par jour. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de texte. Et puis parfois au niveau de la continuité, donc la continuité c'est au niveau du fil conducteur chronologique des scènes, comme on ne tourne pas forcément dans l'ordre, c'est vrai que pour se retrouver quand on passe d'une scène à l'autre, c'est pas évident, et donc pouvoir s'appuyer sur une partenaire comme Julie, c'est un bonheur incroyable.
Bon, maintenant que l'orage est passé, en tout cas, on espère un peu de répit pour ce couple, pour les semaines à venir, mais j'imagine qu'il va encore s'en passer. Mais pour vous, déjà, tous les deux, Julie et Gabriel, qu'est-ce qui nous attend? Et surtout, quels sont vos projets pour les semaines à venir? Peut-être des choses que vous avez tournées, qui vont être diffusées bientôt? Est-ce que toi, Gabriel, ça t'a ouvert des portes, justement, Ici tout commence?
Oui, Ici tout commence, ça m'a ouvert des portes. J'ai pu, il y a quelques mois, tourner sur un unitaire France 2, Noir comme neige. Donc,
Laurent Gérard.
Exactement. Et donc, pour la petite histoire, en fait, le réalisateur était un assistant réel sur ITC. Et donc, ça, c'est comme ça que ça s'est fait. Après, j'ai passé un casting, etc. Mais c'est lui qui a demandé, qui a été l'impulsion, donc, de mon casting. Et puis, après, moi, j'ai une envie, forcément, personnelle de retourner sur des plateaux théâtraux. Mais c'est un peu plus compliqué avec le planning, mais c'est pas impossible. Donc ça, c'est en cours. Après, c'est des projets qui sont en tête et que j'ai envie de développer.
Magnifique série qui était le diplôme. Tout le monde a été conquis par cette série, aussi bien le public, la presse, les spectateurs. On redemanderait aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est une série qui est faite pour être bouclée, où t'as joué un personnage assez mutique, mais qui avait extrêmement de choses à raconter malgré tout. J'imagine que tu gardes un bon souvenir. Est-ce que t'as d'autres projets, justement, Julie, que celui-là?
Là pour le moment non, c'est assez calme et à la fois c'est plutôt chouette aussi parce que ça va me permettre de me concentrer sur mes propres projets à moi et j'ai une année qui a été très chargée l'année dernière pour mon plus grand plaisir, mais là je sens aussi que j'ai besoin de me concentrer sur ce que moi j'ai envie de montrer, de faire et de m'exprimer en tant qu'artiste aussi en dehors de ce qu'on a pu me proposer et où je suis hyper reconnaissante. Et le diplôme c'est un super beau projet.
Le diplôme si vous ne l'avez pas vu, pas de panique. C'est sur TF1+, c'est gratuit. N'hésitez pas à aller découvrir en tout cas les 6 épisodes de cette géniale série créée par Fanny Riette-Berger. Puis on vous suit dans Ici tout commence, on continue à suivre vos aventures moins tempétueuses pour les semaines à venir a priori. Merci Gabriel et merci Julie d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et à très vite.
Précédemment.
Le chef Tessier a décidé d'organiser son propre concours de pâtisserie. Le concours s'appellera le défi des jeunes talents de la pâtisserie.
Et il est ouvert aux chefs de moins de 30 ans.
On va pouvoir participer!
Quand je vois la gueule de vos prépas, là, je me dis que finalement, j'ai pas trop de soucis à me faire avec la concurrence.
T'as le mérite d'avoir une mère normale.
T'as pas décidé d'être malade?
Ma bipolarité met mon fils en danger.
Ah, si tu prends tes médicaments.
Mais vous savez ce qui va se passer si elle récupère pas son fils?
Elle va de nouveau arrêter son traitement.
Tu te sens vraiment prête à t'occuper d'elle?
Allez, ne bougez pas dans un instant. Perrine de Marie au premier regard nous rejoint. C'est notre grande spéciale meurtre à Concarneau. Et notre coup de cœur ciné pour la petite graine, c'est dans un instant. Dans Chut, on écoute la télé.
Bouge pas. Chut, on écoute la télé revient dans un instant. A tout de suite. Le rendez-vous des stars, c'est Chut, on écoute la télé, votre talk show radio.
Moi je voulais plaire aux autres, je me suis parfois oublié. J'ai fait de la peine aux hommes, parfois comme un bouclier. Tu me parles de body count, en effet c'est marrant. Comment tu crois qu'elle a fait pour t'avoir ta maman?
comprends pas, c'est toujours le même sujet, toujours la même rengaine. Je comprends pas comment tu peux juger alors que tu fais la même. Surtout que t'es pas seul pour le faire. Si je t'appelle un soir, tu galopes. Si les mecs ça les rend frais, pourquoi les meufs ça fait? J'en veux plus des mecs, je sais plus quoi faire, ça mérite. Je crois que je préfère les meufs comme la Siverdi Marguerite. Je crois que c'est tous les mêmes, enfin surtout ceux que j'aimais. Ça c'est sûr, mais c'est pas ce que je mérite. Moi je voulais plaire aux autres, je me suis parfois oublié. J'ai fait de la peine aux hommes, parfois comme un bouclier. Tu me parles de bodyguard, en effet c'est marrant. Comment tu crois qu'elle a fait pour t'avoir ta maman? Et toi, c'est quoi ton body count? T'inquiète, te vexe pas. C'est juste pour savoir au cas où tu te respectes pas. Tu veux une meuf comme si qui fait comme ça? Petit, je vais t'apprendre. Nous aussi, on aime ça. Tu comprendras quand tu seras grand. J'en veux plus des mecs, je sais plus quoi faire, ça mérite. Je crois que je préfère les meufs comme la Siverdi Marguerite. Je crois que c'est tous les mêmes, enfin surtout ceux que j'aimais. Ça, c'est sûr, mais c'est pas ce que je mérite. Moi, je voulais plaire aux autres, je me suis parfois oublié. J'ai fait de la peine aux hommes, parfois comme un bouclier. Tu me parles de bodyguard, en effet, c'est marrant. Comment tu crois qu'elle a fait pour t'avoir ta maman? Mais je préfère être seule dans ma chambre. Je comprends pas pourquoi avec les mecs j'ai pas de chance. Mais j'espère que ça va changer. J'espère qu'on va chanter du love. J'aime pas, mais je préfère être seule dans ma chambre. Je comprends pas pourquoi avec les mecs j'ai pas de chance. J'espère que ça va changer. J'espère qu'on va chanter du love. Moi je voulais plaire aux autres, je me suis parfois oublié. J'ai fait de la peine aux hommes, parfois comme un bouclier. Tu me parles de bodyguard, en effet c'est marrant. Comment tu crois qu'elle a fait pour t'avoir ta maman?
Chut, on écoute la télé, c'est aussi en live sur onécoutelatélé.com et sur la page Facebook Chut, on écoute la télé. Chut, on écoute la télé, le talk show radio. Nos coups de cœur télé cette semaine.
Et notre coup de cœur télé consacré à Marié au premier regard qui fait son grand retour ce soir sur M6 évidemment pour un 8e épisode qui va être riche évidemment en rebondissements comme chaque lundi. Et on va dire qu'en rebondissements et surtout en histoire d'amour qui nous a chamboulé le cœur, je dois avouer, c'est celle de Perrine et Alexandre. Et ça tombe bien parce que ben nos chouchous, ils sont là. Elle est là, en tout cas du moins Perrine ce coup-ci, parce que on sait pas si elle est avec Alex encore. Hein. Il faudra attendre la fin évidemment de l'émission pour le savoir, mais Perrine est là. Ça va Perrine?
Oui, ça va super, merci beaucoup.
Dis donc, mais quelle aventure, mais merci. C'est totalement dingue de vivre une aventure pareille. Et c'est vrai que nous, spectateurs, on la vit tellement par procuration avec vous qu'on peut même pas imaginer. Ah, mais on peut même pas imaginer.
C'est totalement dingue, c'est le mot.
Qu'est-ce qui t'a poussé à y participer, raconte-nous.
Alors, ce qui m'a poussé à participer à cette expérience de dingue, c'est que je revenais d'un voyage chamanique dans la forêt amazonienne en novembre 2024. Et ça faisait une semaine que j'étais rentrée dans ma vie normale, entre guillemets, avec mes enfants, etc. Et j'étais devant ma télé, il y a eu un appel à candidature, et ne me demande pas pourquoi ça m'a appelé. J'ai pas réfléchi, je me suis filmée en direct, il devait être minuit dans mon canapé, et j'ai envoyé au lien du casting. Et en janvier, on m'a recontactée pour commencer tous les entretiens.
T'en as parlé tout de suite à André Eden ou pas?
J'en ai parlé tout de suite à André Eden le lendemain matin, mais pas en étant convaincue qu'on allait me rappeler, bien sûr, puisque j'étais bien consciente quand même qu'il devait y avoir des milliers de candidatures.
C'est ça.
Mais je me suis dit, on ne sait jamais. Et elles m'ont regardée, elles n'ont pas du tout été étonnées. Parce que je rappelle quand même que je revenais quand même d'un voyage chamanique d'un jour. Donc plus rien ne les étonnait, n'est-ce pas? Mais par contre, elles m'ont tout de suite donné leur accord. Et ma grande, Ambre, m'a dit, m'a regardé droit dans les yeux, elle m'a dit, je suis sûre qu'ils vont te rappeler.
Franchement, elles sont tellement choupinettes à t'accompagner comme ça dans cette aventure. C'est vraiment, dingue parce que on te sent vraiment épaulé. Et c'est important de faire, pour le coup, une expérience et une émission comme ça. Quand on se sent épaulé par la famille, ce qui est pas toujours le cas des candidats, on le voit les difficultés des fois que vous avez à l'annoncer à vos parents tous. Et exactement. C'est vrai que c'est chouette de pouvoir être épaulé par tes deux filles comme ça.
Ah, mais complètement. Surtout que mes filles, c'est vraiment ma famille. C'est les personnes, bien entendu, les plus importantes de toute ma vie. Et leur accord était primordial. Sinon, jamais de la vie, je me serais lancée dans cette expérience.
C'était tellement drôle de les voir si gênés à la cérémonie quand vous vous êtes embrassée avec Alex, mais c'était tellement drôle de voir leur tête.
Ah oui, c'était très, très drôle. Bon, en même temps, je vous le dis, elles étaient gênées, mais c'est vite passé aussi. Hein. C'était, elles connaissent mon authenticité, ma joie de vivre. Je fais des câlins aux gens très facilement, tout le temps même. Dans mon salon de coiffure, j'embrasse tous mes clients, je donne beaucoup d'amour. Donc, avec le recul, on en a beaucoup parlé toutes les trois. Ça les a pas tant étonnées que ça, tu vois. Elles ne me voyaient pas faire la bise à mon mari si je lui avais dit oui. Hein,
bah oui, effectivement. On a senti une alchimie, mais tellement forte avec Alex, direct. Et c'est vrai que quand on voit toi, d'une part, ta joie de vivre qu'on ressent, mais tellement dans l'émission, et puis Alex, avec toutes les fractures qu'il a, on se dit ces deux-là, mais c'est tellement dommage qu'ils ne se soient pas trouvés avant, que là, on a tellement envie que ça marche. J'avoue que j'ai tellement hâte d'être en juin pour voir effectivement le devenir de tout ça. Mais en tout cas, ça a été une rencontre chargée en émotions pour vous deux, là.
Oui. Très, 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 très chargé en émotions, très intense. À aucun moment, j'aurais imaginé une rencontre aussi intense. Et on a été vraiment connectés, mais pas que dans le côté charnel ou comme on peut le voir des fois à l'écran ou le comprendre à travers les lignes. C'est pas que ça, c'est vraiment, on a été attirés au niveau énergétique, mais un truc de fou. On est vraiment, ça se voit lors de la cérémonie, on est collés comme ça, comme deux aimants. Et on en a énormément parlé après tous les deux. Ni l'un ni l'autre, on arrive à l'expliquer. Ça n'a rien à voir avec l'intellect, parce qu'on ne se connaissait pas. Mais c'est vraiment une attirance comme ça qui ne s'explique pas, tu sais, énergétique et physique. Mais pas que physique, j'insiste. On pourrait croire que c'est ça, mais ce n'est pas que ça.
Mais oui. Non, mais on a senti vraiment autre chose qui passait. Comme disent Estelle et Marie, elles vous donnent évidemment beaucoup de conseils. Et il y a un des candidats qui se posait vraiment le problème de cette rencontre devant les caméras. Est-ce que vous les avez vite oubliées, finalement, ces caméras qui sont omniprésentes, mine de rien, quand même?
Alors, pas pour ma part. D'ailleurs, je dis beaucoup, on me voit à l'écran dire beaucoup, je suis gênée, même si on a l'impression que je suis gênée et qu'après on n'arrête pas de s'embrasser. Malgré tout, j'étais gênée. Et Alex est aussi tactile que moi et est très demandeur de bisous comme moi. Et lui était plus à l'aise face caméra, donc du coup, quand il m'embrassait, je me laissais faire, mais j'étais très gênée. Et dans la voiture, je chuchote à un moment donné, je suis gênée, ça me saoule qu'il y ait la caméra, mais c'est pas parce que j'ai envie qu'on fasse 50 Shades of Grey dans la voiture. Hein. Si j'ai dit ça, c'est parce que je suis gênée.
On l'avait bien compris, on imaginait la tête du chauffeur hein, derrière.
Hein. Ouais, voilà. Non, mais quand je dis, ça me saoule qu'il y ait des caméras, c'est vraiment parce que je suis gênée.
Bah oui.
Je suis pas du tout quelqu'un de timide dans la vie, donc à aucun moment je n'aurais cru être aussi gênée, mais pas dans toute l'aventure, hein. Pas que lors du mariage. J'ai vraiment eu par moments des soucis par rapport au fait d'être filmée dans l'intimité, mais pas que dans le bisou. Tu sais, des fois, peut-être dans une parole ou dire quelque chose de profond, trop
intime. Et de peur que ça soit interprété d'une autre façon, le fait d'être filmée
aussi. Exactement.
Bien sûr. Mais oui, je comprends.
J'ai été plus dans la pudeur, voilà, qu'Alex. Et je pensais pas, tu vois. Donc, c'est intéressant parce que tu découvres aussi des choses, des parts de toi-même dont tu n'as pas conscience avant.
Perrine, la première épreuve, c'est évidemment le tournage. C'est tout ce qui s'est passé fin septembre, début octobre à Gibraltar et tout ce qui s'est passé l'été dernier dans la préparation. Mais la deuxième épreuve, elle a démarré là, il y a quelques semaines maintenant, c'est la diffusion. Oui. Comment vous l'avez vécu tous les deux avec Alexandre, cette diffusion? Est-ce que vous en avez discuté un peu quand même malgré tout?
Oui, on en a beaucoup parlé en amont de la diffusion, surtout moi. J'étais beaucoup plus dans la peur que lui de la diffusion. Mais encore une fois, par rapport à cette histoire de caméra, j'étais plus flippée que lui par rapport à tout ça.
Et tu as demandé à d'autres candidats, par exemple, est-ce que tu as pu contacter d'autres candidats pour savoir comment ils avaient vécu tout ça, prendre des conseils, prendre un peu justement
non,
la température ou pas?
Pour l'instant, tous on rentre pas en contact. On nous conseille de ne pas le faire.
Ouais.
Par contre, j'ai qu'une hâte, c'est de pouvoir faire une grosse chouille tous ensemble.
Ben oui.
De pouvoir, bien sûr, s'échanger toutes nos expériences. Et parce que qui pourra mieux comprendre que les autres, ce qu'on a vécu forcément. Hein.
Oui, puis vous avez chacun votre façon aussi peut-être de le vivre. C'est peut-être aussi pour ça que c'est peut-être pas conseillé pendant la diff, en tout cas, de prendre un peu la température de ce que les autres ont vécu. Est-ce que tout le monde l'a pas vécu de la même façon, quoi?
Et bien sûr, exactement. On est tous différents. Faut pas non plus peut-être se stresser les uns les autres pour rien ou pas. Enfin, pas spoiler aussi, hein, tu vois. Donc,
ouais, c'est difficile, ouais, ça. Oui, c'est sûr. En tout cas, oui, ce soir, on vous a quitté. Vous étiez dans la voiture, vous êtes arrivé à la cérémonie, tout allait bien. C'était la fête, évidemment, la nuit de noces, etc. Et puis, ben là, on va vous retrouver dans cet épisode avec notamment le voyage de noces. Est-ce qu'il y aura quelques ombres au tableau? En tout cas, dans le teasing, hein, ça nous laisse supposer qu'il pourrait y avoir un peu d'orage pendant ce voyage de noces. Mais c'est ce qu'on va découvrir ce soir, évidemment, sur M6, ou que les plus chanceux ont découvert déjà sur M6 Plus Premium depuis lundi dernier, évidemment.
Tout à fait. En tout cas, oui, moi aussi, j'ai hâte, comme tout le monde, de voir les images.
Aucun regret. Tu referais tout pareil.
Je n'ai jamais de regret, moi, dans la vie. C'est une philosophie de vie que je m'ordonne, que je m'exige à adopter jour après jour. Et par contre, s'il y a une seule chose, si j'avais une petite baguette magique, tu sais, que je pourrais, c'est un peu plus m'écouter par moment.
Ouais. C'est important, ça.
Un peu plus écouter mon enfant intérieur. Voilà, c'est juste ça.
Eh bien, on va découvrir la suite de votre très émouvante, belle histoire, en tout cas, qui a démarré devant les caméras. Et qu'on souhaite, évidemment, qu'on espère voir vite. Et puis, on reprendra de vos nouvelles, évidemment, à tous les deux, à la fin de l'aventure, hein, après le bilan, pour voir un petit peu comment vous avez vécu tout ça ensemble. Voilà, ça peut être sympa, en tout cas, de se refaire une petite interview. Merci
infiniment. En tout cas,
infiniment.
Je voulais juste te dire que je sens vraiment de la bienveillance et de la sincérité, et que ça fait vraiment plaisir.
Eh ben écoute, il faut jamais oublier ça, on n'arrête pas de le dire aussi, hein, et on les défend, les candidats de Marie au premier regard. N'oubliez jamais sur les réseaux qu'à travers les mots que vous écrivez ou les mots que vous dites, il y a des humains derrière. Et ça, on le dit à chaque interview, c'est important de vous protéger là-dessus, parce que voilà, ce que vous voyez à la télé, c'est pas forcément toujours non plus le reflet de la réalité pure. Et il peut y avoir des choses des fois aussi qui vous échappent. Donc, il est important de traiter les candidats de l'émission avec bienveillance. Voilà, je le dis.
C'est trop gentil.
Je le dis à chaque fois. Tu embrasses Ambre et Eden, et puis Alex
plaisir.
Peut-être, en tout cas, c'est ce qu'on espère, et on te dit à bientôt.
Oui, c'est un amour, en tout cas, plein de bisous.
Merci beaucoup Perrine. Marie au premier regard revient ce soir à 21h10 sur M6. Voici un petit extrait de ce qui vous attend.
La semaine prochaine, dans Marie au premier regard, le premier double mariage de l'expérience va avoir lieu.
Bonjour Mélanie.
Bonjour, enchanté Antoine.
Mais les doutes de Mélanie, bien plus fragiles que sa sœur Lucille, vont refaire surface au pire moment.
J'espère que mon futur mari sera focus sur moi et pas sur ma sœur, parce qu'elle sera mon retrait.
Après la journée de rêve de leur mariage, Perrine et Alexandre vont se rendre compte que malgré leur folle attirance, ils mènent des vies très différentes.
J'ai eu un bad.
Oui, t'as eu un bad. Oui.
Et qu'il va leur falloir s'adapter pour que leur amour s'épanouisse.
Vas-y, dis-moi.
On n'a peut-être pas le même rythme. Il faut prendre le temps de s'apprivoiser.
J'ai pas très très bien compris.
Et vous ferez la connaissance d'une participante pas comme les autres. Estelle, une footballeuse professionnelle qui souffre tant des préjugés sur son métier qu'ils sont la cause de son célibat.
Allez, notre coup de cœur télé cette semaine est consacré à Phoenix, déjà en ligne sur France.tv depuis vendredi. Et puis nous avons la chance aujourd'hui d'avoir les auteurs qui sont avec nous. Le réalisateur Franck Brett également va nous rejoindre, qui avait réalisé déjà de très beaux téléfilms. Il réalise cette série. Mathieu Bernard, Louis Aubert, deux des auteurs sont là. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. C'est une série très engagée déjà.
On parle d'un sujet qui crée de l'engagement. En tout cas, c'est une série qui pousse à l'interrogation et qui pousse à réfléchir sur notre état et sur ce qu'on peut faire pour l'améliorer.
Oui, je crois qu'on peut dire que c'est une série, en tout cas, qui parle de l'engagement, ça c'est sûr. Nous, on est des personnes engagées. Après, justement, on a envie de partager ça et ces questions-là et de les traiter en fiction, c'était vraiment très intéressant pour nous.
Alors on va y retrouver donc des jeunes gens qui, aux quatre coins du continent, ce qui s'appelle le groupe Phoenix, vont se lancer dans le kidnapping d'enfants de hauts dirigeants qui, eux, sont en train de se réunir dans les Alpes pour un forum prétendant lutter contre le réchauffement climatique, mais évidemment, il n'en est à rien. Et pour leur mettre justement ce coup de pression, ils vont kidnapper simultanément leurs enfants pour dénoncer le greenwashing et leur forcer surtout à tenir les promesses qu'ils ont faites de façon publique, évidemment, parce que c'est toujours ça l'enjeu des dirigeants ou des politiques. Qui a eu l'idée, déjà, de base ?
Alors, en fait, je vais essayer de la faire courte là-dessus. Il y avait une production qui voulait à un moment parler des mouvements de la jeunesse sans savoir quoi en faire. J'ai eu une discussion, donc moi c'est Mathieu, j'ai eu une discussion avec Louis, et on a réfléchi en disant ces mouvements de la jeunesse, ils parlent d'un désir de radicalité parce qu'ils ont l'impression que rien ne se fait. Et du coup, on s'est dit, bah tiens, on va parler de la radicalité de ces jeunes. Et en parlant, on a enclenché sur le sujet le plus essentiel dans leur avenir, c'est le dérèglement climatique.
Vous êtes trois auteurs. Comment vous êtes répartis un peu les tâches? Est-ce que vous avez écrit par épisode chacun ou est-ce que vous avez vraiment écrit de façon collégiale?
Alors c'est un travail à quatre mains la plupart du temps. C'est vrai qu'il y a des phases différentes dans l'écriture. La première, évidemment, c'est de trouver l'idée, la développer les histoires. Donc là, c'est vraiment un moment où on était en collaboration avec Mathieu presque tout le temps, où en discutant, on trouvait nos histoires, nos idées. Et après, on rentre dans une deuxième phase qui est celle des épisodes dialogués, où là, pour le coup, chacun partait avec un épisode, puis après, on les échangeait pour se faire des retours mutuels.
Une fois qu'on est au dialogué, l'important, c'est donc beaucoup les dialogues, et que tous nos personnages aient les mêmes champs lexicaux, que ce soit moi qui écris les dialogues ou Louis.
Alors, on va parler de la réalisation, bien sûr, dans un instant avec Franck Brett qui va nous rejoindre, mais c'est vrai que c'est vraiment tourné à pas mal d'endroits, ça complique un peu la situation. Est-ce que vous avez eu, en tout cas, l'écriture, quelques freins là-dessus, ou vous êtes un peu permis ce que vous souhaitiez à la base?
L'idée, c'est comme ça qu'on aime écrire, c'est qu'on s'est autorisé beaucoup de choses, et puis au fur et à mesure qu'on écrit, on se renseigne autour de la production, de la chaîne, de voir c'est quoi nos moyens, parce que on peut réduire la voilure ou l'augmenter quand c'est merveilleux, on a plus de moyens. La difficulté, elle est double là-dessus, c'était par rapport au décor, et on a pensé notre série par ce qu'on appelle dans notre jargon des arènes. Donc on a une arène où il y a tous les jeunes, il y a une arène où il y a tous les parents, et donc ces arènes doivent se répondre dans le scénario. Et puis il y avait une autre difficulté qui est pour nous très importante dans la série, c'est que les jeunes activistes sont européens, et ils sont espagnols, ils sont allemands, anglais et français. Et on voulait qu'ils puissent parler dans leur langue organique et que tout ça soit fluide quand même à l'écran. Et ça, c'était un gros travail scénaristique à faire.
Oui, c'est vrai que très tôt, on est parti du postulat que le dérèglement climatique était un problème qui touchait tout le monde et qui s'arrêtait pas aux frontières de la France, et que du coup, ça nous semblait une évidence qu'il fallait justement englober, voire un peu plus grand, un peu plus large, etc. Donc effectivement, ça a été un challenge. Après, ça reste une fiction, donc il y a évidemment plein de triches. On raconte qu'on est à un endroit alors qu'en fait on est à un autre. Mais en tout cas, c'était vraiment très intéressant pour nous de s'interroger sur ce côté méta et au niveau du continent et pas juste au niveau du pays. Et interroger en fait qu'est-ce que ça peut être pour une jeune Allemande, un jeune Anglais, etc. Et trouver les enjeux qui pouvaient les lier à ces questions-là, qui sont pour eux des questions de vie ou de mort.
Alors il y a un très joli casting que vous allez découvrir évidemment dans cette série, Léo Legrand, Marie Colombe, bien sûr on a également Matteo Patel qu'on a vu dans Un si grand soleil, Arnaud Viard, François Berléand, Natacha Hinninger et bien d'autres encore. On va continuer à en parler, on va justement demander à Franck dans quelques instants quelles sont les parades qu'on trouve quand on a des actions qui doivent censées se dérouler aux quatre coins de la planète, et comment faire pour réduire justement et faire croire, parce que c'est la magie du cinéma et de la télé tout simplement. On en parle avec lui dans un instant, mais on va d'abord écouter Abandon annonce Phoenix, déjà sur France.tv. Merci à tous les deux.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup et bon visionnage.
Et on revient tout de suite avec Franck.
Chaque génération se croit vouée à refaire le monde. Peu importe ce qu'il veut faire de nous, c'est nous qui choisissons.
Vous comptez faire quoi maintenant?
Les quatre plus grosses entreprises du continent, qui sont aussi parmi les principaux émetteurs de CO2.
Et on est de retour avec le réalisateur de Phoenix, donc Franck Brett, qui nous rejoint. Bonjour Franck.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. On avait eu l'occasion de te recevoir pour Comme un fils, qu'on avait vu à Luchon, avec toi, très très beau téléfilm. Et donc là, c'est une série, et si je m'abuse, c'est une de tes premières grandes séries.
Bah, j'avais déjà travaillé sur Balthazar, j'avais fait 10 épisodes de Balthazar avec Thomas Sisley, et une première mini-série l'année dernière qui s'appelle L'Éclipse, avec Anne Charrier et Claire Keim, donc là c'est ma deuxième mini-série.
Deuxième grande série, puisque là on est effectivement sur une mini-série de 6 x 45 minutes qui vient de sortir, on le disait, sur France.tv depuis vendredi. Alors Franck, on a planté un petit peu le décor avec les auteurs il y a quelques instants, mais il faut dire que cette série est censée se passer un peu aux quatre coins du monde, avec beaucoup de rebondissements, avec beaucoup de choses qui s'y passent. Comment on arrive à rentrer dans une économie quand on est réalisateur? Parce que quand on n'a pas d'argent, souvent il faut trouver des parades pour arriver à la réalisation, faire illusion finalement, parce qu'on est un métier de magicien quelque part.
Tu l'as très bien dit, c'est exactement un métier de magicien, donc c'est censé se passer aux quatre coins de l'Europe, donc on est censé être à Barcelone, on a des scènes à Liverpool, Francfort, et ça c'est l'écriture, après il y a la réalité du budget, et du coup on doit trouver des solutions. Donc à des moments, on va voir quel décor on peut vraiment avoir, à quel endroit on peut vraiment tourner. Et d'autres parties, par exemple, on a un hôtel à Francfort. C'est un hôtel, par exemple, qu'on pouvait tourner en France. Après, on va changer les panneaux de signification en allemand. On va mettre des figurants qui disent quelques mots allemands. Voilà. Oui, c'est des tours de magie. C'est faut faire illusion qu'on est dans certains lieux. Et pour avoir aussi des meilleurs décors en France aussi.
Il y a une mécanique très rythmée, en fait. Hein. Ça va très, très vite. Hein. Dès le départ, on voit les kidnappings, justement, de tous les enfants de ses dirigeants. Et c'est vrai qu'on est embarqué dans un tourbillon avec Marie Colombe, avec tout le casting, avec Léo. Et on découvre, effectivement, cette machination qu'il y a autour. Et puis, d'un seul coup, effectivement, aussi le rengagement, finalement. Parce que c'est ça. C'est aussi l'engagement d'une jeune génération, aujourd'hui, qui est en train de se rebeller contre le réchauffement climatique.
Exactement. Bah, surtout, le premier épisode, c'est une série assez spéciale parce qu'on a énormément de personnages à présenter. En plus, aux quatre coins de l'Europe, en 45 minutes, donc c'est sûr qu'on va aller très vite à gauche, à droite, faut montrer les motivations de chacun, essayer d'expliquer un peu qui ils sont à chaque fois, comprendre les relations entre les personnages, et on a beaucoup de jeunes comédiens et de jeunes rôles. Mais oui, c'est le combat d'une jeune génération qui veut, je vais reprendre par rapport au Phénix, qui veut cramer le monde existant pour faire quelque chose de nouveau.
Qu'est-ce qui t'a plu dans le projet, Franck ?
Absolument tout. C'est moi, c'est un coup de cœur énorme. En tant que réalisateur, j'avais jamais tourné de fiction déjà en autre langue, et ça, c'est hyper attirant. C'est ça se fait très peu en fait. Il y a pas beaucoup de séries qu'on peut citer dans plusieurs langues, et là, donc déjà, il y a ces quatre langues. Déjà en anglais, c'était un rêve que j'avais, que j'ai pu réaliser, et aussi, bah, le sujet, moi, c'est un sujet qui me touche énormément. Voilà, je suis pour l'écologie, et là, j'avais moyen de faire. Un peu changer les choses à travers les images. Et le dernier point, c'est les jeunes comédiens. Moi, c'est un âge que j'adore explorer. Les 18-25 ans, c'est un âge, je trouve, même, je vais élargir un peu, les 15-25 ans, c'est un âge qui m'intéresse énormément dans mes projets et dans les comédiens. Comme j'avais pu faire avec les clips, c'est là, rentrer encore un peu plus en profondeur, avec ils ont des niveaux, des strates sociales un peu différentes, c'était hyper intéressant.
Alors Franck, quelles ont été les scènes que tu redoutais le plus, peut-être ? Qui t'ont donné quelques soirs froides ou quelques nuits blanches ?
J'en ai pas redouté, mais j'avais beaucoup de scènes avec beaucoup de comédiens. Ce qui est sur un plateau pour un réalisateur compliqué, parce qu'il faut arriver à
chorégraphier tout ça.
C'est chorégraphié. C'est des scènes à deux personnes. Bon, c'est assez facile. On dirige les deux, c'est facile. Là, il y a beaucoup de scènes avec six personnages, dont Cataleya. C'est une comédienne de 6 ans avec des jeunes comédiens et en plus dans différentes langues. Donc, il faut diriger en français. En anglais, il faut parler à tout le monde, ça se disperse un peu parce qu'on est jeune, il y a un peu une ambiance colo sur le plateau. Donc il y a toutes ces scènes qui ont été un pur bonheur en même temps, mais je les redoutais pas, mais c'est vrai que ça prend beaucoup d'énergie parce qu'il faut recentrer tout le monde. Les scènes les plus compliquées que je n'avais jamais fait, c'était plutôt les scènes d'incendie. Quand il faut courir à travers des incendies, on a utilisé du vrai feu. Attention, on a protégé les arbres, on avait des autorisations, c'est fait dans les règles de l'art, c'était des parcelles de forêt qui étaient censées de toute façon devait être coupé certaines parties, donc on a les autorisations évidemment de tout le monde. On travaille avec les pompiers, l'ONF, voilà, mais il y a une partie un tout petit peu vraie parce que j'ai même appuyé sur du vrai et ensuite rajouté des effets spéciaux, donc il y a une partie de feu qui est vraie. Et ça, c'est des scènes que je n'avais jamais fait en incendie. On a aussi, bon, je peux pas spoiler évidemment pour ceux qui vont regarder, mais il y a pas mal de feu, ouais, quand on tourne à côté des flammes, c'est assez impressionnant.
Est-ce que c'est bouclé à la fin, ou est-ce qu'on peut imaginer peut-être une saison 2 ?
Alors cette question, si on l'avait posée aux auteurs, ils auraient dit absolument pas de saison 2, absolument pas. Elle est écrite avec un début et une fin. Après, qui sait ?
On sait jamais.
Voilà.
Bon, eh bien écoute, c'est ce qu'on va découvrir. En attendant, on va découvrir déjà Phénix. Quel est le dernier mot que tu aurais envie de dire aux auditeurs pour qu'ils se précipitent maintenant sur France.tv ?
Allez-y, parce que c'est une série vraiment spécial, vraiment original, qui sort du lot, et je pense qu'il va vous parler, vous plaire.
Merci beaucoup, Franck.
Avec plaisir.
À bientôt.
Mon mère, elle a plein d'argent.
C'est beaucoup plus important.
C'est à vous que s'adresse notre message. Vous menez notre planète droit dans le mur, mais c'est terminé. Il vous suffit de transférer l'argent et on épargnera vos enfants.
Il est hors de question de négocier avec ces terroristes.
Si on veut récupérer l'argent, faut qu'ils nous prennent au sérieux.
Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus puisse changer le monde.
Phénix, la série Phénomène sur France.tv.
Allez, on continue notre spécial Phénix avec Léo Legrand qui nous a rejoint. Bonjour Léo.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui joue le rôle de Mathias. Alors, on a planté un peu le décor, effectivement, avec Franck et les scénaristes il y a quelques instants. On parle effectivement d'un collectif, le groupe Phoenix, qui va kidnapper des enfants de dirigeants pour tenter de faire dénoncer leur greenwashing et surtout les forcer à tenir leurs promesses. C'est une série engagée, pour le coup, écologiquement. Léo, qu'est-ce qui t'a plu en premier dans ce projet déjà ?
Moi, c'est vraiment le pitch et puis cette logline et le fait que ce soit un projet engagé, c'est-à-dire que le projet d'avoir des militants qui décident de faire une action, coup de poing en kidnappant ses enfants de patrons de grandes entreprises polluantes, c'est déjà un pitch quand on le voit, qui nous dit « Oh mon Dieu, c'est quelque chose qu'on n'a jamais vu, c'est une idée qui pourrait popper dans à peu près n'importe quelle tête. » Avec plaisir, quoi. Et je trouvais ça bizarre que personne même n'y ait pensé avant de faire un scénario comme ça. Et puis ensuite, en ayant reçu le scénario, en ayant discuté avec Franck, voilà, moi je suis tombé tout de suite amoureux du projet, amoureux du scénario, et puis amoureux de la vision de Franck, voilà, on était très d'accord.
Alors Mathias est le frère du personnage de Marie Colombe, alors qui lui va être effectivement, son parcours va être un peu semé d'embûches pour rejoindre après un peu tous ses amis, à tel point que sa sœur va en être très inquiète. Mais la bonne nouvelle, c'est que Mathias s'est changé de roue de voiture.
Mathias s'est changé une roue de voiture et apparemment c'est kidnappé des gens aussi. Mais oui, non, c'est un...
quelques petits soucis mécaniques, quoi.
C'est ça, et puis c'est une route qui est semée d'embûches parce que non seulement on va avoir des soucis mécaniques, mais on va avoir un souci personnel aussi.
Cette série, elle va crescendo au fur et à mesure des choses. On plante vraiment sur le premier épisode tous les personnages, le kidnapping, les dirigeants qui apprennent le kidnapping de leur enfant aussi. Et tout ça a un sens, mine de rien, parce qu'on essaye de comprendre, c'est ça qui est bien, il y a un point de vue dans la série où on comprend un peu quand même les différents points de vue et les protagonistes.
Oui, c'est vrai, c'est une série chorale. Et puis on a en fait la chance de pouvoir avoir développé effectivement chacune des personnalités de chaque personnage avec le leg de flashback qui arrive effectivement à chaque fois, à chaque début d'épisode. C'est ce qui permet de nous attacher à tout le monde.
Comment tu le définirais, Mathias ?
Engagé, sûr de lui, il se sent peut-être un peu plus intelligent que lui qu'il n'est, en tout cas un peu plus malin que ce qu'il ne croit. Il est rassembleur.
Rassurant, je dirais même, par rapport aux autres du groupe.
Ouais, c'est vrai qu'il est rassurant. Bah, il est rassurant, oui, parce qu'il a besoin de l'être, quoi, pour mettre son plan en action.
Une scène qui t'a peut-être un peu plus marqué, ou qui a été pénible à tourner, ou peut-être au contraire qui a été drôle?
Bah, la scène dans le premier épisode, effectivement, avec où c'était vraiment notre premier genre de tournage, où on s'est retrouvé avec le personnage du détective à devoir se battre dans un champ de blé, qui est voilà en milieu d'un changement de roue, comme ça, perdu dans un champ. C'était une entrée en matière assez sportive, quoi.
C'était le premier jour de tournage, ça, justement, l'histoire de la crevaison.
Alors, il me semble que c'était le premier ou le deuxième, mais c'était vraiment dans les premiers jours de tournage. Ouais.
Si tu devras garder un souvenir de ce tournage, un souvenir de Phoenix. Si on te le demande dans 5 ans, par exemple, lequel tu diras ?
C'est une bonne question. J'ai tellement de souvenirs sur ce tournage. C'était tellement une espèce de bulle, un peu au moment suspendu, comme ça, au-dessus de tout, parce qu'on s'est vraiment, personne n'habitait là où on était. Donc c'était vraiment une espèce de colonie de vacances avec toute l'équipe qui était là, tout comme ça, en permanence, dans une station de ski perdue à la montagne, avec un restaurant qui a pu ouvrir. Je pense que le premier dîner, c'était vraiment assez drôle. On a organisé avec Jules Poirier, on s'est organisé une petite raclette comme ça le premier soir de tournage pour avoir un peu tout le monde et pour pouvoir discuter. Et quand ça s'est mis à parler 5 langues différentes dans ce dîner, on s'est dit ouais, ça va être une expérience humaine exceptionnelle.
C'est ce qu'on disait justement avec les scénaristes et Franck, hein. Il y a vraiment plusieurs nationalités. Il a voulu aller chercher aussi des personnages qui ont vraiment se parler, qui ont vraiment cette langue pour que ça soit le plus véridique possible. Et c'est ça qui est vraiment chouette. Et puis ben, c'est censé se passer aux quatre coins du monde, mais il a fallu trouver aussi des parades dans une économie de plus en plus compliquée pour la fiction. Et franchement, c'est très chouette. Moi, je vous conseille de découvrir Phoenix sur France.tv déjà. Merci beaucoup, Léo.
Ouais, merci à vous.
Et à bientôt.
À bientôt.
Nos coups de cœur télé cette semaine.
Allez, on démarre notre spécial meurtre à Concarneau qui sera diffusé samedi soir à 21h10 sur France 3. Un nouvel opus de la collection Meurtre que vous allez découvrir, qui nous emmène, je vais pas dire en voyage, en vacances, mais presque. On va être à Concarneau en Bretagne, et quel beau paysage vous allez pouvoir découvrir, et surtout une enquête très ficelée menée de main de maître par Adeline Darrow qui est avec nous. Bonjour Adeline.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, qui est produit par Pierre Sportolaro. Bonjour Pierre.
Bonjour, enchanté.
Merci d'être là. Il n'est pas venu tout seul, Frédéric Français est avec nous aussi, notre producteur. Bonjour Frédéric.
Bonjour.
Merci d'être là. On a Stéphane Massard, conseiller des programmes à France 3, mais vous allez voir pas que ça dans ce film. Stéphane, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être là, conseillère de programme aussi à France Télévisions.
Bonjour, Nadira Merabé.
Merci d'être avec nous. Alors, on va recevoir dans quelques instants aussi Guillaume Arnault, Raphaël Agoguet et Hubert Delatte. Vous êtes venus en nombre aujourd'hui pour nous présenter effectivement ce meurtre. Où est-ce qu'il est né, ce meurtre? Qui c'est qui peut nous dire un peu la genèse du projet? Pierre Jean, ou Frédéric?
Ouais.
Le breton, c'est Frédéric, d'accord.
Mais en fait, dans toute l'équipe, il n'y a que Pierre qui n'est pas breton. Donc, que ce soit nos amis de France Télévisions ou Adeline à la réalisation, on a tous un gros coup de cœur pour la Bretagne. On y habite pour la plupart. Et donc, on est très fiers de valoriser Concarneau, une ville close et les bords de mer. Donc voilà, c'est surtout un cri du cœur de tourner en Bretagne.
C'est en tout cas de très jolis paysages. Et surtout, on le disait, une enquête ficelée qui démarre au large de Concarneau avec un cadavre, avec une inscription en breton qui est retrouvée plantée bien comme il faut. Adeline, hein, dans le sternum, voilà. Effectivement, en anatomie, je m'y connais un petit peu moins qu'en acteur, je t'avoue. Mais en tout cas, qu'est-ce qui t'a attiré, Adeline, dans cette enquête et qui t'a fait dire oui à part la Bretagne?
À part la Bretagne, bah déjà, moi j'ai une attache assez forte au meurtre, puisque c'est mon cinquième meurtre, mine de rien. C'est toujours des enquêtes rigolotes à mener, à organiser, à filmer. Donc voilà, donc c'est vrai que quand Pierre, que je connaissais déjà d'ailleurs, parce qu'on avait déjà travaillé ensemble, me l'a proposé, j'étais ravie. Et puis le fait que ce soit à Concarneau a joué aussi quand même, je reconnais.
Bah oui, c'est vrai. Nos deux duos d'enquêteurs, qui c'est qui veut nous en parler justement, Guillaume et Raphaël? Comment ils ont été choisis tous les deux? Qu'est-ce qui vous a séduit en eux, Pierre?
Ouais, bah écoute, casting, j'allais dire. Après, ce qui était assez atypique au fond, c'est que sur ce duo, il y avait un jeune comédien, voire très jeune comédien. Donc, on en a parlé avec les camarades, Stéphane et Nadira, parce qu'ils ont beaucoup d'autres tournages. Et donc, ils ont vu passer, vous l'aviez vu, je crois, hein, travailler déjà Guillaume. Voilà, donc il y a eu un casting quand même. Et puis, ça s'est imposé. Je crois que Adeline le connaissait aussi. Tu avais tourné avec lui, tu vois. Donc, ça s'est fait aussi comme ça, par feeling un peu perso, expérience du comédien. Et Raphaël, que je connaissais moins, perso, voilà. J'ai vu des essais, j'ai vu des choses qu'elle avait faites, et donc ça s'est un petit peu imposé assez vite aussi sur elle, je dirais, quoi, tu vois, de façon assez simple, quoi, du désir. Toi, tu la connaissais, je crois, un peu? Non plus, hein,
c'est ça. C'était voilà, une rencontre aussi.
Donc voilà, sur le casting, je voulais dire, c'est fait comme ça. Le plus gros risque, entre guillemets, c'était presque sur Guillaume, qui est plus jeune, tu vois, qu'on connaissait moins, qui a moins d'expérience. Et au final, je crois qu'on était contents du résultat, quoi, tu vois.
Ouais. Alors, c'est vrai que la collection Meurtra, c'est un succès incroyable. Je crois qu'on peut mettre n'importe qui en face, quasiment. Meurtra arrive à chaque fois en tête des audiences. C'est une fierté pour vous deux à France Télévisions d'accompagner cette collection depuis maintenant presque 15 ans.
C'est plus qu'une fierté, c'est surtout qu'on a toujours l'impression qu'on peut découvrir de nouveaux territoires, en fait, et de nouvelles légendes, de nouveaux duos. La marque est tellement forte qu'on peut même faire des pas de côté. On en a fait certains ces derniers temps. Et du coup, la marque nous permet de nous porte même, en fait, parce que les gens sont là, et même en rediffusion, les meurtres à remarche, en fait. Et on arrive même à être leader sur cette case-là tous les samedis soirs, voilà. Non, on est très fiers.
Alors c'est vrai que dans un contexte de réduction des coûts drastiques à France Télévisions, ça devient compliqué d'investir dans la fiction. Il était question effectivement que cette collection soit se réduise, voire même s'arrête. Ça en est où? Parce que je sais que les tournages étaient un peu gelés, mais ça a repris. On a eu un meurtre à Angoulême qui a été tourné dernièrement aussi. Comment ça se passe en ce moment?
On reprend petit à petit. Non, la case elle est gelée parce qu'en fait on n'avait pas de budget. Tout le monde est bien placé pour le savoir. Il y avait un coup de 49.3 qui est sorti depuis peu.
Pas de bras, pas de chocolat.
Voilà, exactement. Donc là, on va pouvoir petit à petit se remettre en ordre de marche. Voilà, et on sait de combien on ne dispose pas. Voilà, en gros.
C'est déjà pas mal, effectivement. Stéphane, alors pour la petite histoire, tu apparais dans le meurtre à Concarneau. Tu t'es offert un petit rôle, dis-moi.
Oui. C'est un peu mégalo. Non, en fait, j'avais déjà pour le gag, j'avais déjà fait un maire dans la série Tandem pour le dernier épisode où j'ai marié un couple au sein de Tandem. Et en fait, Pierre m'a dit, mais pourquoi tu ferais pas le maire dans ton Concarneau maintenant que t'as l'écharpe? Voilà, c'est parti de là. Voilà. Voilà.
Et j'ai validé le rôle et le personnage et le comédien.
Ça a été un voilà. grande tension, mais elle a dit oui, donc on était ravis quand on a dit.
Et alors, la metteuse en scène, qu'est-ce qu'elle en a pensé du petit comédien Stéphane Massard?
Bah, c'était un plaisir. Franchement, on a passé un bon moment ensemble, on a bien travaillé. C'était un grand bonheur.
Bon, en tout cas, moi, j'ai beaucoup ri quand j'ai vu apparaître à l'écran. Je vous avoue que j'ai eu une petite satisfaction et je rêvais effectivement de l'accueillir sur mon plateau pour en parler de cette histoire. Bon. Et justement, tiens, pendant que je t'ai, Stéphane, quels sont les prochains meurtres qui se préparent?
Alors il y a Meurtre en Pays de Caux. Après on a fait des déclinaisons parce qu'on fait on fait des meurtres sur l'artisanat. Donc il y a Meurtre Soissons.
Domaine du sport aussi hein, qui a été initié avec le mort sur terre battue par exemple qu'on a vu il y a pas longtemps.
Ouais, exactement, il y a aussi ça et il y a aussi sur la littérature, Pays de Caux, ce sera sur Arsène Lupin. Voilà.
Il y a les mystères qui continuent aussi, j'imagine.
Les mystères continuent.
Les Grottes de Régulus qui vont être diffusées bientôt.
Exactement. Dont on est très fiers aussi. Première réalisation pour Laurie, donc super. On est très contents.
Et on l'accueillera d'ailleurs hein, pour la diffusion, bien évidemment. Il était question d'un meurtre à Fort Boyard.
Oui, qui sera tourné au mois de juin, normalement. Voilà.
Après les tournages de l'émission, eh bien, ça va faire beaucoup de bien. Qu'est-ce qu'on peut dire en histoire de départ? Qui c'est qui veut nous pitcher un petit peu le film? Parce que j'en ai dit un petit peu, moi, au départ. Pierre?
Non, si tu veux, le départ, alors, bien que non breton, je me suis quand même dit, tiens, ce serait pas mal d'avoir des auteurs peut-être bretons. C'était pour rassurer Fredo. Donc, on a fait appel à deux auteurs qu'on connaissait d'ailleurs, parce que j'ai déjà fait un meurtre à Belle-Île avec eux. Fabienne Le Sieur, Victor Pavy. Donc, c'est parti. En tout cas, moi, après, j'ai un appétit particulier. Fred me connaît, tu vois, j'ai bossé pour Fred, mais j'avais fait d'autres films déjà avec Stéphane, Nadira, j'ai rencontré sur ce film, mais j'ai toujours eu une envie, un appétit, moi, pour les sujets un peu, même si on est dans le genre, donc il faut faire un meurtre. Et après, le succès de la, j'allais dire, le succès de la collection nous contraint aussi, parce qu'il faut à chaque fois essayer de trouver quelque chose, au fond, de séduisant, qui reste dans les chartes, quoi, tu vois, un petit peu dans la charte de la collection, mais il faut essayer de trouver quelque chose qui vibre un peu. Alors, moi, j'ai toujours été attiré par le sociétal, voire même des sujets un peu politiques derrière. Donc, on en avait parlé avec Stéphane et Frédéric. Donc, on est parti sur deux sujets. J'allais dire que ça s'entrecroise. Il faut à la fois de l'émotionnel, parce que les meurtres, c'est toujours aussi basé sur des personnages qui ont des aventures personnelles, on va dire, assez fortes. Ça part du duo de policiers. Et puis ensuite, on voulait entrecroiser à la fois du social derrière, du sociétal plutôt. Et aussi, après, on a trouvé une zone un peu politique. Alors, j'ai pas envie de spoiler, quoi, tu vois, un peu le... Mais c'est ça, on voulait être très breton à la fois. Il faut être dans la légende. Là, on est moins dans la légende, j'allais dire, au sens de sa spectacularité ou ancien du terme. Voilà, on voulait coller à des sujets un peu d'actu, un petit peu, si j'ose dire. Alors, il y en a un, honnêtement, on ne savait pas quand on est parti sur le film au niveau du pitch. Mais je ne dis pas ce que c'est, mais c'est dans l'actu énormément aujourd'hui. Donc, vous verrez peut-être très présent dans l'actualité, là, voilà, au niveau policier notamment et politique. Et puis, il y a un autre aspect aussi, là, pour le coup, très breton, qui vibre dans le film, un petit peu qui est la finalité. On va découvrir quelque chose qui tourne autour d'une énergie qui a été celle des Bretons très longtemps, qui s'est un petit peu amenuisée aujourd'hui, mais on en parle dans le film. Donc voilà, l'idée c'était d'être à la fois très meurtrant, et puis d'apporter des sujets au fond qui donnent aux téléspectateurs quelque chose d'un peu neuf, quoi, tu vois. Mais de rester quand même très ancré sur la Bretagne. Je dois dire que je suis lorrain, mais j'avais envie de servir magnifiquement la Bretagne. J'espère que nous y sommes parvenus avec après la mise en scène de d'Adeline et puis des comédiens, voilà, qui ont tous fait un beau boulot. Après, on a essayé de vendre ça aussi, nous. Hein. L'idée c'était de leur dire, voilà, les amis, hein, le film, il est sur des sujets quand même rugueux. Donc, on voulait que les comédiens se mettent à niveau, j'allais dire, quoi. Tu vois, et Adeline a fait le boulot, je pense, pour qu'ils soient tous dans cette énergie. Enfin, j'espère. On espère.
Bon, on va recevoir de toute façon dans quelques instants, juste après la bande-annonce, tout le fan club d'Aline Naro, Raphaël Agoguet, Guillaume Arnaud et Hubert Delattre. Ils vont nous en dire tout le bien, je crois, dans quelques instants. En tout cas, ils vont nous rejoindre juste après la bande-annonce. Adeline, ce sera le mot de la fin. Qu'est-ce qu'on gardera comme souvenir de ce meurtre?
Une équipe formidable, une équipe bretonne, formidable, beaucoup de plaisir, une météo assez sympathique. Et puis, ce qui est essentiel pour moi, c'est de chercher à me renouveler tout le temps, de ne pas faire deux fois la même chose. Et ça, je crois que c'était sympa parce qu'il y avait l'occasion par le texte d'apporter des choses un peu différentes.
Merci beaucoup Adeline, merci Pierre, merci Nadira, merci évidemment Stéphane pour presque ce premier rôle à la télé. Et merci à Frédéric, en tout cas Meurtre à Concarneau. C'est samedi à 21h10 sur France 3. Petit extrait, on revient juste après. Guillaume Arnaud, Raphaël Agoguet, Hubert Delattre nous rejoignent. À tout de suite.
Qu'est-ce que c'est que ce marsouin?
Je peux savoir pourquoi la radio locale diffuse des détails de l'affaire?
Peut-être parce qu'avec une dizaine de témoins à bord, c'est difficile d'éviter que ça fuite. Je suis Magali Morvan. Je suis la commandante du service local de la PJ de Concarneau. Au moins, grâce à votre arrivée discrète, tout le monde sait qu'on est sur le coup.
Capitaine Rivière, brigade criminelle de Brest. La proc nous a co-saisi sur l'enquête et je supervise. Mais pas de galère, je suis preneur de ton expertise locale. Ça te va si on se dit tu?
Bon, tu me briefes ou je dois attendre la radio pour en savoir plus?
Non, bien sûr, pardon.
Allez, on continue notre spécial meurtre à Concarneau. Chose première, chose due, les comédiens nous ont rejoints. Raphaël Agoguet qui est avec nous, on commence par les filles. Bonjour Raphaël.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Et puis on a Guillaume Arnaud qui nous a rejoint aussi. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Merci d'être là. Hubert Delattre également nous a rejoint. Bonjour Hubert.
Bonjour.
Merci d'être là tous les trois. Alors, on va parler de Magali. On a planté un peu le décor, justement, avec Adeline, avec Pierre à l'instant et Stéphane. On va parler, évidemment, un peu plus de Magali. Raphaël, déjà, première chose, j'ai envie de demander, qu'est-ce qui t'a donné envie de l'incarner?
Alors, moi, c'est la rencontre avec Guillaume, bien sûr, et Adeline, donc la réalisatrice et le comédien principal. C'est avant tout ça, puisque des rôles de policier, j'en avais déjà incarné quelques-uns. Quand j'ai lu, j'avoue que j'ai vu les scènes de plongée, par exemple, et je me suis dit, c'est pas possible, ça va être coupé, jamais ils vont tourner ça. Et c'était quand même très excitant de me dire que cette bretonne pur jus faisait de la plongée, et voilà, donc c'était une facette de flic que j'aimais bien.
C'est vrai que la Bretagne est un personnage à part entière, hein.
Ouais, moi je suis très contente parce que j'ai des cousins bretons d'ailleurs que j'embrasse, qui sont très fans de tout ce que je fais, et je les adore. C'est un pays que j'adore, moi je viens du sud, côté de Nîmes, mais j'ai beaucoup d'affection pour la Bretagne et les Bretons, ouais.
Guillaume, on va parler bien sûr aussi de Gabriel Rivière. Alors qu'est-ce qui t'a donné envie en tout cas de l'incarner, et comment tu le définirais ?
Alors moi déjà, pour répondre à la première question, ce qui m'a donné envie de l'interpréter, c'est... j'avais déjà bossé 4 fois avec Adeline, c'était la 5e. Avec Adeline, on se connaissait bien, j'ai eu l'occasion d'explorer pas mal de facettes de mon jeu avec elle, et là on attaquait un nouveau truc un peu plus, je sais pas, t'es flic, du coup c'est un truc où tu vas moins dans les émotions, c'est plus neutre, mais en même temps il faut réussir à tenir le public sur 1h30, donc j'étais très heureux d'être accompagné d'Adeline pour travailler sur un truc comme ça avec elle.
Pour être guidé.
Voilà, ouais, pour être guidé par une réalisatrice en laquelle j'avais énormément confiance. Et Gabriel, c'est
quelqu'un qui est droit.
Ouais, c'est quelqu'un qui est assez droit, qui est en conflit avec son père,
buté, dit Hubert.
Bah oui.
Et qui était très, ouais, têtu, ouais, buté, ouais, voilà.
Oui, parce qu'on va découvrir au fur et à mesure effectivement qu'il y a un passé, il y a un passif en tout cas vers son père, puisque c'est un capitaine du SRPJ de Quimper, Gabriel Rivière, et qui vient collaborer avec Magali, à pas tout de suite voir ça d'un bon œil évidemment, hein. Ça, comme dans tous les meurtres.
Il est plutôt bien, en fait. Moi, quand je le vois débarquer, non, au tout début, quand je te vois débarquer, alors je ne sais pas qui tu es, mais après, quand je dis, en fait, le truc, c'est que t'es le fils de quelqu'un.
Son père,
mais qui est un auteur que mon personnage adore, et du coup, je suis très, enfin, j'ai un truc qui pétille en me disant, ah, c'est un lien avec.
Parce qu'elle est fan, hein, du père, hein, de Gabriel.
Et en fait, c'est pour ça que c'est très décevant la suite de notre collaboration, parce que tu me mets un froid et un
Il met un vent monumental dès le début.
Et voilà, et donc après, comme en plus, bon, tu as tendance à quand même, ton personnage, hein, j'entends, a tendance à être un peu, voilà, à avoir confiance et à vouloir rouler des mécaniques, et c'est moi qui gère et c'est moi qui drive. Bon, quand même, tu viens dans mes terres, voilà.
Hubert, on peut pas en dire grand-chose, toi, ton personnage. On va voir que c'est assez complexe au fur et à mesure de l'histoire. Pour pas te piéger, puis pour pas spoiler à nos auditeurs, déjà, qu'est-ce qui t'a donné envie tout simplement d'y aller?
Alors moi, tout ça, ben, la réalisatrice, parce que je l'ai rencontrée il y a de nombreuses années à un festival, et on s'était dit qu'un jour on travaillerait ensemble. Et plein de fois, elle m'a appelé, elle m'a proposé des choses, on aurait pu se retrouver déjà, Guillaume, mais et en fait, j'étais jamais voilà dispo pour ce qu'elle me proposait. Et un jour, elle m'a appelé. Non mais pas obligatoirement pour le travail. Mais en tout cas, ça marchait jamais. Et un jour, elle m'a appelé et j'étais sur le tournage de L'été deux fois, qui était un petit peu éprouvant. Et elle m'a dit oui, tu lis tout ça et puis tu me dis ce que t'en penses. Alors c'est pas le premier rôle, etc. Mais tu verras, j'aimerais bien que tu le fasses. Et en vrai, je lui ai dit je vais lire, je vais réfléchir, mais j'avais raccroché. Et je savais que je le ferais, quoi. Donc j'étais hyper content de le faire. Elle m'avait parlé du casting déjà. Toi, t'étais là, toi, t'étais pas encore là. Voilà. Et j'étais hyper content de le faire pour ça. Et après, j'ai lu et puis le rôle était hyper sympa parce que, comme dit, je ne sais plus qui, il n'y a pas de petits rôles, il n'y a que des petits acteurs. Donc voilà.
Quels souvenirs vous garderez de ces paysages grandioses que la Bretagne vous offre avec tout son lot de légendes, puisque ce meurtre à Concarneau ne fera pas évidemment exception. Il y aura de la légende, il y aura du mystère, il y aura plein de choses, effectivement aussi.
Ah ouais, moi j'ai trouvé que c'était un tournage idyllique parce qu'on était tous, les conditions de tournage étaient pratiques et confortables, donc ça participe grandement voilà, à la qualité du tournage, les partenaires très chouettes, mais ce qui était confortable et ce qui était qualitatif, c'est que comme on était tous sur place dans un petit périmètre, on se vraiment on vivait cette vie un peu intramuros de Concarneau, qui est quand même assez chouette, c'est tout petit, voilà, et donc il y a un côté cosy comme ça, un peu familial, et puis le
voilà, t'as envie de rester le week-end, manger des crêpes, aller au bord de la plage. Enfin, tu vois, c'est cool, quoi. Et c'est, et très vite, bah ouais, ce qu'on a fait, mais tu vois. Donc, il y a un côté au-delà de la carte postale. C'est vrai que c'est aussi très confortable pour nous, comédiens.
Guillaume, même chose. Très beau souvenir, la Bretagne.
Ouais, extrêmement bon souvenir. Petite ville, très confort. Ouais, je crois que j'ai fait toutes les crêperies de la ville. Moi, j'en ai fait 17, je crois, à peu près. Ouais. Donc, je pourrais dire lesquelles sont.
Tu as fait une élection de meilleur ou pas?
Bah, j'étais avec ma copine qui est très fan de crêpes. Donc, oui, on a fait une petite. Non, c'était incroyable. On a été hyper bien accueillis. Les gens étaient hyper chaleureux, très contents de nous voir sur place. On a passé un super bon moment.
Parce que c'est ça aussi, hein, quand un tournage fait irruption dans une petite ville comme ça, ça se voit tout de suite, hein, on passe pas inaperçu.
Oui, mais là pour le coup, dans le bon sens du terme, mais parce que je crois qu'il y avait une réciprocité, c'est-à-dire que notre équipe était quand même constituée de beaucoup de locaux et de gens cool. Enfin, quelque chose de positif, oui, qui n'est pas toujours le cas quand un tournage débarque quelque part.
Bon, merci en tout cas d'avoir été avec nous. On découvre ce meurtre à Concarneau, samedi à 21h10. Merci d'avoir terminé cette spéciale. Merci Hubert, merci Raphaël et merci Guillaume. On vous dit à bientôt.
Merci.
Et à samedi sur vos écrans.
Merci.
Là, ça, c'est la voiture de notre victime, Gilda Kemener. Uh-huh. 46 ans, mariée, mais pas d'enfant. On l'a retrouvée garée ici, pas très loin de la Fée Viviane, le bateau vert là-bas. C'est un chalutier qui appartient à sa flottille. Il était armateur.
Et on a une explication sur la présence du corps de Gilda dans le chenal où il aimait y patauger en tenue de plongée.
Alors, pas que je sache. J'imagine qu'on t'a parlé de l'inscription sur le torse, Traitour A, qui en breton veut dire. Toi qui as trahi.
Bah, défaut de mobile, c'est une piste, Magali. Et nous allons l'emprunter, ainsi que toutes les autres. On va commencer par Madame Kemner, elle vit où?
Juste là.
Allez, 60 nuances de Chris, c'est le spectacle surtout à ne pas rater, qui tourne un peu partout en France. Le spectacle de Chris Baranzelli, qui est notre invité aujourd'hui. Bonjour Chris.
Bonjour Alain.
Merci d'être avec nous, et le spectacle passera le 19 et le 20 juin. Ça sera au Citron Bleu à Toulouse et surtout à Avignon. C'est l'événement du 4 au 25 juillet. 60 nuances de Chris. Et ce n'est pas son tour de poitrine, c'est ça le sous-titre?
Oui. Le sous-titre, c'est « N'y allez pas pour son tour de poitrine ». Hein? Qu'est-ce que t'en dis, Alain?
Non, mais Chris, alors, raconte-nous comment est venue l'idée déjà de ce spectacle et depuis quand tu t'essayes au One Woman Show?
Alors, ce spectacle, je l'ai écrit il y a 2 ans et ça fait plus d'un an et demi que je le joue. Entre Paris, Lyon, j'ai joué aussi à Manosque et dans le 92-91 aussi, pas mal de fois. Et en fait, c'est venu il y a quelques années où je commençais à écrire des chroniques parce que j'ai fait une formation radio et je voulais à tout prix être chroniqueuse sur France Inter. Ce qui n'est pas chose faite encore. Et à force d'écrire des chroniques, en fait, je parlais plein de choses de mes expériences à moi. Et à un moment donné, je me suis dit, bon, je vais en faire un spectacle. Du coup, là, dans mon spectacle, je parle des années 90, de ce que j'ai vécu moi, de mon adolescence. Et je parle aussi de moi à 40 ans, enfin la quarantaine et quelques rides, n'est-ce pas?
Tu veux dire 40 ans hors taxe, c'est ça?
Oui, exactement. Oui, c'est exactement.
Comme moi, c'est tout pareil.
Et donc là, je parle de sujets qui, entre guillemets, devraient être tabous, mais ne le sont pas du tout avec moi. Rien n'est tabou avec moi, je parle de tout, donc de sexe, d'alcool, de mammographie, même de poils avec les gens dans le public. Donc on parle de plein de sujets, et j'ai aussi appris la guitare.
Donc tu chantes aussi?
Ouais, alors je chante, c'est pas un de mes meilleurs atouts, n'est-ce pas? Mais je fais chanter les gens, et je danse, ça je sais faire.
Et ce qui est drôle, c'est le titre quand même.
Oui, ah ouais. Alors tout le monde dit...
Un petit clin d'œil quand même.
Un petit clin d'œil, ouais. Bah, évidemment, en fait, le fil conducteur, il y a quand même... Je parle un peu de mes seins, ce qui attise un petit peu le...
Curiosité.
La curiosité, oui. Et puis surtout, quand je fais Avignon, moi, j'ai un t-shirt spécial où c'est écrit vraiment « N'y allez pas pour son tour de poitrine ».
D'accord. Donc, tout de suite. Évidemment, tout de suite, ça crée un peu... Qu'est-ce qu'on va y voir, justement, sur scène? On a envie de voir à quoi faut s'attendre. Est-ce que faut s'attendre à quelques personnages où vraiment tu te racontes et tu t'inspires de toutes les expériences passées?
Alors, il y a des personnages, parce que je fais pas du, comment dire, du pur stand-up. C'est-à-dire, je suis pas derrière un micro du tout. Déjà, il y a pas de micro suivant la salle. Et il y a des personnages, il y a la danse, de la musique, et je parle aussi avec les gens. Je vais beaucoup dans le public.
Ah oui, carrément, tu te mêles à eux.
Oui, je me mêle à eux, et d'ailleurs, ils sont super, ils aiment bien. Ils aiment bien, en général.
Justement, le public, parlons-en. C'est toujours difficile avec l'offre qu'il y a de spectacles. Comment on fait pour arriver à se faire un trou? Qui plus est, quand on est une femme, justement, dans ce monde du one-man show qui a été très longtemps dominé par les hommes.
Alors, figure-toi que moi, j'ai une anecdote que je raconte dans le spectacle. C'est qu'un jour, on m'a dit, en me regardant, toi, t'es une femme, et dans le stand-up, bah, va falloir travailler 3 fois plus. Donc, effectivement, faire son trou en tant que femme... En tant que humoriste, c'est très dur. Alors, maintenant, on est de plus en plus nombreuses. Après, faire son trou, être connue et faire Bercy ou l'Olympia, bon, j'en suis pas à ce stade-là, mais bon, on espère.
Mais écoute, il faut... Est-ce qu'il y a d'autres corps à ton arc que t'aimerais justement explorer pour la suite? Genre la comédie, par exemple, avec un rôle dans une série.
Oui, alors moi-même, si je suis humoriste, je suis aussi comédienne depuis quelques années, mais effectivement, un rôle dans une série, dans une quotidienne ou une série en prime time, peu importe, ça me plairait énormément, oui.
C'est quoi le style de rôle que t'aimerais ?
Alors moi, je suis plutôt dans le registre comédie, vraiment. Dramatique, je sais pas si je saurais faire. Moi, je suis quelqu'un de plutôt naturel. Là, tu commences à me connaître un peu, Alain, donc naturel, un peu avenante. Je suis sympa, quoi.
Cet été, tu fais Avignon du 4 au 25 juillet. Tu vas te frotter à près de 1800 concurrents. Tu me disais, ça foisonne de toutes parts. Il y a des spectacles du matin au soir. Comment on s'y prend pour attirer le public dans ces cas-là?
C'est beaucoup de contacts.
À part le t-shirt, j'ai bien compris.
Oui, à part le t-shirt. Tu vois, j'avais déjà oublié le t-shirt.
Non. Pas moi.
C'est beaucoup de contacts, en fait. Moi, je parle énormément aux gens, donc je vais leur parler. Tu vois, les gens qui sont en terrasse, ils sont en train de déjeuner, ils sont là pour ça, donc ils sont ici très réceptifs. Hein. À part, évidemment, t'as 2-3 personnes des fois qui disent « Ah, non, merci ». Mais la plupart, 99% des gens sont là pour ça, pour voir des spectacles et pour rencontrer les artistes. Et ils aiment voir l'artiste avant d'aller les voir sur scène. Donc moi, c'est le contact. Je passe par là, franchement, et je parle. Et des fois, on m'invite à boire un verre. Et donc, je dis « Ok, on reste ». Et on papote, et voilà. C'est là que ça se crée.
Ah oui, effectivement. Alors, le spectacle s'appelle 60 nuances de Chris. N'hésitez pas à aller le voir. Je vous le disais, dans notre région, ça passera justement à Toulouse, au Citron Bleu. Ça sera le 19 et le 20 juin. Ça va arriver très, très vite. Et puis, il y a des dates qui arrivent pour l'année prochaine. Évidemment, ça va continuer à tourner un peu partout.
Je pense que ça va continuer à tourner. Pour l'instant, je me suis consacrée un peu à tourner dans le sud, plus Avignon. Donc, ça m'amène jusqu'à fin juillet. Et comme j'ai fait ma dernière à Paris, du coup, j'ai pas encore relancé la machine pour septembre. Mais il y aura. C'est sûr.
Il y aura des dates, on espère en tout cas, et on vous tiendra au courant. Et bien évidemment, des futures dates de Chris Baranzelli, si elle passe près de chez vous, ne la ratez pas. Vous allez passer une heure de folie et de fou rire.
Et si vous êtes sympa, si vous rigolez, ça dure une heure et quart.
En plus, il y a un rappel.
Exactement.
Écoute, qu'est-ce qu'on peut demander de mieux ? Merci Chris d'avoir été avec nous. 60 nuances de Chris, ça donne ça. Voici un petit extrait, rien pour vous.
Alors, ça va être un peu long pour les moins de 30 ans. Trop tard. J'avais pas de... Vous savez... de Joule, quoi. Toi, tu m'as l'air un peu jeune. Tu sais ce que c'est qu'une bru? Alors, je t'ai dit, c'est facile, hein. C'est une belle fille. Une belle fille, une fille bonne à marier, quoi. Et moi, regarde, je suis déjà mariée. Mais je suis toujours bonne! Isabelle Huppert. Oh, bravo, Isabelle Huppert! Mais oui, je ressemble à Isabelle Huppert. En même temps, la seule différence entre elle et moi, le succès.
Bouge pas, chut, on écoute la télé, reviens dans un instant, à tout de suite. Tous les bonus audio et vidéo de votre émission sur onécoutelatélé.com, sur notre chaîne YouTube et notre page Facebook, chut, on écoute la télé.
Je t'ai gardé les bouts d'étoiles, j'en ai des tonnes dans les poches. Pour qu'en tout cas s'étouffe mal, pour les nuits pâles et les jours mâles. N'aie pas peur, tout passera. N'aie pas peur, tout passera. Et on se trouve à un endroit où la vie tremble et la vie danse, où ton cœur plein de bosses pourra enfin dormir sur mon épaule. Oui, on se trouvera un endroit où on se foutra de ce qu'ils pensent. Oui, on se trouvera un endroit où l'on rira quand la mort frôle. Quand la mort frôle. Quand la mort frôle. On s'inventera quelques mensonges, des innocents qui tiennent chaud, pour ne plus sentir ce qui nous ronge. Et le temps fera ce qu'il faut. Et on se trouvera un endroit où la vie tremble et la vie danse, où ton cœur plein de bosses pourra enfin dormir sur mon épaule. Oui, on se trouvera un endroit où on se foutra de
ce qu'il pense. Oui, on se trouvera un endroit où l'on vivra quand la mort frôle. Oui, on se trouvera un endroit où la vie tremble et la vie danse. Où mon cœur plein de basse pourra enfin dormir sur ton épaule. Oui, on se trouvera un endroit où on se foutra de ce qu'il pense. Oui, on se trouvera un endroit où l'on vivra quand la mort frôle.
Retrouvez toute l'actualité de votre émission en vous connectant sur notre site onécoutelatélé.com ou sur notre page Facebook Chute on écoute la télé. Chute on écoute la télé, le talk show radio. Le coup de cœur ciné de la semaine.
Notre coup de cœur ciné cette semaine est consacré au film La Petite Graine qui sort mercredi au cinéma. Un film des frères Rifkis, Mathias et Cola sont avec nous. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. La Petite Graine, j'ai eu la chance de le voir au Festival d'Angoulême il y a maintenant quelques mois et qui raconte l'histoire de Denis et Céline qui rêvent d'avoir un enfant, mais tout va pas se passer comme prévu puisque concernant Denis, c'est un petit peu compliqué. Et donc, ils vont avoir une idée de génie, faire appel à Piche qui lui avait réussi à mettre enceinte Céline. Donc évidemment, ils vont avoir cette idée de génie de lui faire appel pour tenter de lui faire donner son sperme pour essayer voilà de donner la petite graine. Voilà. Comment est venue l'idée du film? Racontez-moi, Mathias.
Oui. Alors très rapidement, en fait, nous auteurs de comédie, on se doit d'aborder des thèmes des fois douloureux. Et le fait de pas avoir un enfant dans une vie, ça peut être douloureux pour un couple. Mais non, je pense qu'on a le devoir de les traiter avec singularité. Comme un petit pas de côté, un nouvel angle. Et c'est quelque chose, en fait, moi je vais rentrer direct dans l'intimité. Ni Cola ni moi n'avons réussi à avoir des enfants pour des raisons diverses. C'est toujours des choses qui nous ont travaillé. Et comment on fait pour réenchanter le couple sans enfants, faire ce travail de résilience? Donc c'était pour nous un thème fondamental au moment de l'écriture. Et surtout, on a été très heurté par une intervention de notre cher président Macron qui, il y a quelques mois avant notre idée du film, avait fait une conférence de presse sur ces sujets et avait dit, avait enjoint la population des campagnes et des villes à un réarmement démographique, comme si c'était facile pour tout le monde. Et donc du coup, de cette violence de la citation, nous on a répondu par notre écriture de comédie sur ce thème. Et donc on a voulu rire de l'obsession d'un couple. Voilà. Mais en même temps, gardant vraiment beaucoup de tendresse, comme on a l'habitude de le faire dans notre écriture pour les personnages, on les rachète à chaque fois, on trouve que c'est eux souvent qui nous racontent la suite du film qu'on a entamé.
Alors c'est vrai que ça tourne autour d'un trio hein, qui va se voir rejoindre par des personnages hauts en couleur évidemment à côté, incarnés par Sébastien Chassagne, Louise Massin et Oussama Kedam qui vont arriver d'ici quelques instants d'ailleurs. Cola, moi ce que j'ai trouvé c'est que dans la mise en scène, il y a quelque chose aussi de très théâtral. On a l'impression d'être au théâtre quand on regarde parce que il y a vraiment cette maison qui fait partie des personnages à part entière. Mais on a l'impression d'être au théâtre, ça se regarde, mais vraiment avec délectation.
Bien sûr, ben, très rapidement, en fait, on savait avec Mathias que, puisque la situation de départ était un repas auquel est invité donc le personnage de Piche.
Le Piche.
Voilà, Piche qui est joué par Oussama Kedam à l'arrivée. Et on savait déjà à l'écriture, même aux premières lignes, que la soirée allait s'étirer, qu'on allait rester longtemps sur ce repas dans une maison. Et donc s'est posé très rapidement la question de la mise en scène en disant voilà, il nous faut quand même un dispositif pour pas. On ne voulait pas que ça ne fasse pas théâtre, mais on savait que ça allait être du théâtre. Et du coup. On a privilégié surtout avec les comédiens qui sont vraiment excellents pour nous. On avait envie vraiment d'étirer très longtemps des plans séquences, de faire confiance à leur jeu. C'était un film avec beaucoup de rhétorique, beaucoup d'affrontements qui sont drôles, qui sont parfois touchants. Et donc c'est vrai que ça donne cette impression comme ça de théâtre dans cette maison. Et après il y a sans dévoiler, il y a une deuxième partie qui commence après où on sort un peu de ce huis clos. Mais nous on trouve que pour un premier film le huis clos c'était quelque chose de très intéressant pour nous parce que ça permet quand même aussi de se concentrer sur nos comédiens, le jeu des acteurs, la parole. Et c'est quelque chose qu'on revendique de vouloir vraiment que ça soit des films de comédiens en fait.
Comment vous répartissez les tâches tous les deux, Mathias?
Alors, ça a évolué avec le temps, parce que nous, derrière nous, on a quand même 7 films, enfin 7 courts-métrages, et puis ça c'est notre premier film. Ça a évolué parce que on s'est rendu compte que quand on parle à un technicien, une équipe ou des comédiens, il faut absolument pas un ordre et un contre-ordre. Il faut vraiment qu'on se comprenne quand on travaille ensemble. Donc du coup, nous souvent, chaque scène est dirigée par l'un de nous deux, et le deuxième est en retrait face au combo et regarde la scène comme un spectateur de cinéma, en fait, comme on le redécouvrirait au cinéma. Et c'est deux regards totalement différents. Quand vous avez quelqu'un qui regarde la scène comme un spectateur de cinéma et un autre qui la dirige au pied de la caméra, on sait qu'on aura des regards différents. Et vu qu'avec Cola, étant jumeau, on a cette faculté de très loin, en se regardant, de pouvoir se comprendre, bon, bah, si moi je suis en train de diriger la scène au contact des comédiens à côté de la caméra, j'ai que à regarder Cola à 8 mètres derrière le combo pour que dans un regard il me fasse comprendre des choses et on soit pas deux voix, des fois contradictoires, qui viennent parler aux comédiens. Et ça change à chaque scène. Ce qui nous donne une énergie phénoménale dans la journée parce que une scène sur deux, on va au contact et voilà. Et je pense que les comédiens apprécient ça. Voilà. Donc ça, c'est sur le tournage et après, pareil, en écriture, on a beaucoup évolué. On écrit des fois beaucoup de notre côté, chacun de son côté et on percute les textes. C'est assez intéressant de voir quand on travaille sur une thématique, de pouvoir percuter des textes, enfin les mélanger. Donc voilà, mais on évidemment notre méthode a évolué.
Alors, ce film, je disais, même s'il y a quelque chose de très théâtral, il y a aussi des sujets plein en filigrane, et notamment effectivement la question de la parentalité. Il y a la question aussi du harcèlement scolaire quelque part, hein, dans un sens aussi où Piche, quand même, on a fait voir à Denis à l'époque. Et c'est vrai que tous ces petits sujets viennent par touche parce qu'il y a aussi cette petite rancœur de Denis. Par contre, comment on choisit trois comédiens comme ça? Parce que ça soit Sébastien, Louise ou Oussama, ils sont parfaitement à leur place tous les trois, quoi.
Exactement, vous l'avez dit, ils sont parfaitement.
C'est un pari, quoi, ça.
Oui, c'est un pari, mais nous, on voulait absolument ces comédiens-là. On voulait des comédiens. Nous, on aime les personnages, et eux, c'est des comédiens qui servent les personnages. C'est vraiment des gens d'abord avec qui on avait certains déjà travaillé, d'autres non, mais qu'on avait vu au théâtre, des gens capables justement d'assumer des longs textes en plan séquence. Et surtout, on voulait nous rendre grâce à des corps nouveaux, à des visages nouveaux, à des. Je trouve qu'il y a aussi, on va dire, une starification, une glamourisation du cinéma français qui va pour certains films de voilà des grandes épopées, mais je trouve que quand on parle du réel et nous on parle de gens de peu qui habitent à la campagne, moi je trouve ça des fois un peu indécent de mettre une gigantesque star que j'aime voir dans d'autres films plus appropriés. Et nous, notre cinéma, il parle de ces gens-là, de ces gens de peu. Donc ça, on aime beaucoup. Et c'est vrai que grâce à eux, on a pu porter plusieurs sujets. C'était des complexités et surtout, on aimait bien. Vous avez parlé justement de harcèlement, de d'avoir un enfant, et toutes ces thématiques-là, c'est la cour d'enfant, c'est la cour de récré, c'est le moment de l'enfance. Et je trouve que tous ces comédiens-là, nous on les fréquentant, je trouve qu'ils ont très fort gardé l'enfant qui est en eux. Et moi, j'aime jouer avec l'enfant qu'à l'intérieur des comédiens que je dirige. Souvent, je me trouve que la vie, le jeu de dupe, nos rapports sociaux, c'est une cour de récré avec des enfants qui se font la misère ou au contraire qui se sont amoureux. Et en fait, on ne fait que reproduire cette cour-là dans la vie et donc dans les films.
Et on va recevoir deux enfants, justement, dans un instant. La transition est bien faite. Louise Massin et Oussama Kedam vont nous rejoindre pour parler effectivement de Piche et de Céline. On va écouter la bande-annonce de La Petite Graine. Ça sort mercredi dans les salles. Merci Cola, merci Mathias. Et on récupère les comédiens. On revient tout de suite après. À tout de suite.
Bon, ça va toi?
Ça va et toi?
Oh, putain. Juillac.
Très bien, Juillac.
Denis Bouquet? Denis Bouquet-Quête?
Et vous, il n'y avait pas d'enfants dans les tuyaux? Franchement, j'ai dit une connerie?
Non, c'est juste qu'on rencontre quelques petites difficultés.
Enfin, Céline, on va quand même pas conditionner notre projet d'enfant à ce type-là, hein?
On en a déjà parlé, Denis, on n'a pas le choix.
Ok, Google, est-ce que le sperme d'un homme qui a bu 2 verres de vin blanc, 2 bières, 6 verres de pastago, 7 verres de pastago peut encore féconder dans les 3 heures qui suivent?
Ouais, ça là, ça c'est exceptionnel ça.
Allez, de retour pour notre spécial La Petite Graine. Nous avons entendu la bande-annonce. J'espère que ça vous a donné envie d'aller le voir au cinéma. Et comme on le disait avec Mathias et Cola à l'instant, on a récupéré nos deux enfants. Oui, parce qu'il paraît que c'est des enfants sur un tournage. Louise Massin est avec nous et Oussama Kedam. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour tout le monde. Bonjour.
Et ils nous ont dit que les comédiens, c'était comme des enfants d'une cour de récré sur un tournage. Vous étiez beaucoup amusés, en tout cas. Et c'est ce qu'on a l'impression en regardant. On a planté le décor avec vos deux réalisateurs. On va évidemment présenter vos personnages, celui de Céline déjà pour commencer, Louise.
Alors Céline, c'est une femme qui est mariée donc à Denis, qui est très heureuse en couple et qui rêve d'avoir un enfant. Ça fait une petite dizaine d'années qu'ils essayent d'avoir un enfant et ils y arrivent pas et ça la rend assez malheureuse. Donc c'est une femme qui va au bout de son idée, qui est jusqu'au boutiste, je dirais.
Qui est tombée enceinte pourtant à 17 ans. C'est ce qu'on apprendra dans le film, évidemment, c'est ce qui va mettre le feu aux poudres un peu. Avec Piche, Oussama, ce Piche, il est pas mal hein, quand même.
Bah, ce Piche, c'est un personnage que, à la première lecture du scénario, je me rappelle, la première phrase, c'était « j'ai envie de le défendre ». C'est un gars qui a choisi sa vie, qui veut pas de responsabilité, qui kiffe sa vie. Puis il y a son ami d'enfance, j'avoue que lui, il était pas au courant qu'elle était tombée enceinte, vu que ça a été spoilé, mais on peut le dire. Ouais. Puis on lui demande sa petite graine, et puis.
C'est tout le sujet du film, hein. Si elle demande à Piche, il y a une raison.
Voilà. Oui, il y a une raison, parce que c'est un couple qui est en détresse et qui a une obsession, qui veulent absolument avoir un bébé. Elle se rappelle qu'à 17 ans, il y a un seul homme sur cette terre qui l'a mis enceinte, c'est ce Sanigo.
Et évidemment, il va avoir du mal quand même, Piche, à encaisser la nouvelle.
Bah, surtout qu'il le vit un peu comme un guet-apens, parce qu'il n'était pas venu pour ça.
Oui, parce qu'ils l'ont invité quand même en loose day, hein, les deux.
Oui, surtout qu'il n'était pas du tout au courant que le mari était là, quoi. Donc il est venu, il vient au rendez-vous en se disant, sur un malentendu, je suis un peu en date, quoi.
Voilà, c'est ça. Mais
à trois, on ne sait pas, on ne sait jamais.
Bah, je pense que Piche... Piche, il n'était pas contre.
C'est ça, on l'a bien senti. Mais en tout cas, lui, Denis, il n'a pas vu ça du tout de cette oreille-là. Et il faut dire que Sébastien Chassagne, il offre tellement des scènes de comédie. C'est de la folie, quoi.
Ah ben, jouer avec Sébastien Chassagne, c'est jouer. Jouer, voilà, c'est un bonheur, quoi. Il est en réaction, il propose, il a toujours une vanne, il a des réactions. Ses réactions sont très belles parce qu'elles sont très justes.
Spontanées.
Et il y a une naïveté dans ce qu'il propose, je trouve. Enfin, il y a ce truc un peu qui est hyper touchant, quoi, et évidemment très drôle.
Bah, c'est là toute la force des deux réalisateurs, parce que je trouve que vraiment, enfin, c'est pas péjoratif, mais je trouve qu'on se ressemble pas du tout, que ce soit physiquement ou dans notre rythmique, mais on se retrouve dans une vérité que je trouve que j'ai adoré, parce que j'ai adoré jouer avec Sébastien Chassagne et j'ai adoré jouer avec Louise Massin, c'était pas la première fois, et puis Delphine qui est juste magnifique dans ce film.
Alors moi, ce qui m'a frappé, c'est que quand j'ai regardé le film, j'avais l'impression d'assister aussi à une pièce de théâtre, tellement il y a quelque chose de théâtral, ce que je disais à Mathias et Colin à l'instant, et de vous voir jouer comme ça, parce que même si c'est une histoire de trio, il y a tout plein de personnages haut en couleur qui viennent vous rejoindre au fur et à mesure de l'aventure, on dira pas pourquoi ni dans quelles conditions, mais vous allez voir, vous n'allez pas être déçu au fur et à mesure. Mais est-ce que c'est ce que vous avez ressenti aussi peut-être en le voyant la première fois monter?
Alors non, moi je l'ai tout de suite senti à l'écriture.
Au tournage et à l'écriture.
Au scénario, c'est très théâtral, c'est vrai. Il y a des répliques c'est très écrit. Il y a des punchlines et les personnages sont un petit peu caricaturaux, non, mais si un peu. Je veux dire, le personnage de Piche, mais Oussama le joue à merveille, donc il l'humanise beaucoup et tout. Mais voilà, il y a à la lecture, moi j'ai senti ça tout de suite.
Oussama ?
Ben moi je l'ai retrouvé surtout dans le comique de situation, en fait.
C'est très au présent. C'est pas hyper clair, encore une fois, mais c'est, on regarde.
Je comprends ce que tu veux dire. On regarde le film, on a l'impression que vous jouez en réel et en direct.
Exactement. Je suis d'accord. Voilà.
Ça revient un peu sur ce que tu disais au début, en rigolant. Quand tu parles d'enfants, on jouait au papa, à la maman, et on essaye de faire. Enfin, vraiment, on l'a ressenti. Enfin, j'ai vraiment ressenti ça. Et c'est ça que je trouve merveilleux, c'est avec les réals qui sont eux aussi des enfants, faut pas croire.
Alors, pardon, c'est eux, hein, les plus gros enfants.
Ils remettaient l'église au milieu du village.
Voilà.
Quelle était la scène qui vous a fait le plus rire?
Quand Delphine Baril danse. Avec sa musique, enfin quand elle danse, c'était hyper difficile de rester sérieux. Les scènes du dîner, du repas, on a eu des fous rires pas possibles, quoi. Dans les réactions, moi j'avoue que j'adore le OK Google, je vais pas plus loin. OK Google me fait beaucoup rire.
La piscine des voisins m'a fait beaucoup rire aussi.
Oui. Voilà, exactement, la piscine des voisins. Bon, et tout ça, en fait, en regardant le film, je me disais, mais c'est des trucs qu'on a déjà vus, c'est des vannes, c'est des blagues un peu, presque un peu par un garde, mais voilà. Et ça marche de fou, quoi. C'est trop bien.
Voilà, tout de suite, la scène qui me revient tout de suite, c'est celle du. Mais pareil, on peut pas expliquer pourquoi, mais c'est pareil pendant le dîner. Quand il dit va chercher la bouteille, ouais, dit, c'est pas le moment là, on est au début.
Et qui s'énerve.
Voilà. Mais ouais. Quand ils écoutent, ils comprennent pas pourquoi c'est drôle.
Non, mais justement, comme ça, on va les inciter à aller voir le film pour qu'ils comprennent évidemment ce qu'est l'histoire de cette fameuse bouteille. Qu'est-ce qu'on peut vous espérer là, 2 jours de la sortie du film? Je sais que vous avez hâte de le partager, mais est-ce que vous aimeriez peut-être, si c'était adapté au théâtre justement, poursuivre l'aventure et reprendre vos rôles, sans vous le proposer?
Oh bah ouais, bah de toute façon moi j'adore le théâtre, donc oui je serais ravie de le jouer au théâtre. Moi je suis hyper contente, c'est pas parce que je tourne dans le film que je pense ça, c'est que vraiment je trouve que ce film il a une singularité qui est mais aussi tout public, et je trouve ça rafraîchissant, et je suis vraiment contente qu'un film comme ça sorte.
Ça va ?
Je rejoins tout ce que vient de dire Louise. C'est vraiment ce que je souhaite, c'est juste qu'un maximum de personnes vont prendre du plaisir dans ce film. Il y a 4 comédiens et des réals et une équipe qui ont mis tout leur amour et
ils ont mis leurs petites graines.
Et...
Oh, ouais. C'est beau, hein.
Je pense que j'aurais pas mieux que ça.
On va finir là-dessus parce que c'est trop joli.
Exactement. On termine par vos projets à tous les deux pour 2026. Qu'est-ce qui vous attend ?
Alors, une série avec Diane Segar pour France Télé.
Il s'appelle ?
La Vie Rose. Et le film de Ryuzuke Hamaguchi, Soudain.
Très bien. Pour toi, Osama ?
Moi, c'est le film de Alain Raoust, Un champ de fraises pour l'éternité. Et le prochain film d'Agnès Jaoui, Autant pour nous.
Ça va ?
Ouais, je suis trop content.
Ah oui, tu m'étonnes, c'est bien. La Petite Graine, en tout cas, ça sort au cinéma mercredi, ne le ratez pas. Merci Louis et merci Oussama d'être venu terminer cette spéciale avec nous. On a beaucoup ri en voyant le film et j'espère que vous aussi, mercredi, vous allez rire beaucoup en allant le voir. Merci à tous les deux.
Merci à toi pour ta vibe.
Merci beaucoup.
Lundi prochain dans Chute, on écoute la télé.
Allez, lundi prochain, ça va être incroyable. 3 coups de cœur ciné, l'équipe de La Poupée, de L'Arnaqueuse et de Pour le Meilleur seront nos invités exceptionnels. Fadili Camara, Tiffen Daviau, encore Philippe Croison et Cécile de France seront dans Chute, on écoute la télé.
Le rendez-vous des stars. C'est Chute, on écoute la télé, votre talk show radio.
Allez, je vous invite à rester connecté avec nous. N'oubliez pas que vous avez également le podcast de La Quotidienne tous les jours à midi sur notre site onécoutelatélé.com et que chaque lundi à 20h, on vous donne rendez-vous évidemment pour le podcast de l'hebdo de Chute, on écoute la télé. Vous pouvez rester également connecté avec nous tout au long de la semaine sur notre page Facebook Chute, on écoute la télé et télécharger également nos applications pour iPhone et Android. Chute, on écoute la télé. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau podcast de Chute, on écoute la télé, l'hebdo. À lundi prochain, 20h.
Chute, on écoute la télé avec Langélis, votre maître artisan glacier en Nouvelle-Aquitaine. Des glaces sans ajout d'arômes, sans colorants, sans conservateurs. Découvrez les sorbets, crèmes glacées, cônes artisanaux et la nouvelle gamme de peaux gourmands, Jade et Ali, disponibles dans vos rayons en grande surface. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop salé, trop sucré. Chute, on écoute la télé avec vos boutiques de prêt-à-porter Speak en Nouvelle-Aquitaine. Speak, c'est la mode homme, femme, des pépites chaque semaine pour tous les budgets. Mais Speak, c'est aussi un corner seconde vie pour les vêtements que vous ne portez plus. Alors n'hésitez pas. Plus de 15 boutiques Speak vous attendent en Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez toutes les adresses et la boutique en ligne sur speak.fr.